Le progrès chrétien de George Whitehead partie V suite. Les disputes continuent après quelques disputes entre Zénou, des lettres et des manuscrits circulant entre John Horne et moi-même. Je reçus de sa part une lettre furieuse, contenant sa bulle astérisque d'excommunication, ainsi que des malédictions répétées contre moi, ce qui montrait grandement le tempérament de son esprit. Il n'était pas d'un esprit chrétien, mais d'un esprit amé et persécuteur. Quelques passages de sa lettre suivent. « Dieu s'est tenu près de moi et m'a rendu capable de te clouer le bec et de te prouver tel que le peuple doit te tenir pour maudit. Tu es dans le fiel de l'amertume, des trompeurs endurcis dans votre voix, et il est inutile de multiplier des réponses, des écrits ou des paroles, pour vous qui êtes condamnés par vous-même. Et l'apôtre ordonne, après le premier et le second avertissement, de rejeter un hérétique, celui qui a choisi sa propre voie et s'y est endurci. Ce n'est que peine perdue de vous adresser des écrits ou des réponses, puisque vous êtes plein de tergiversations, falsifications au moyen d'un langage vague ou ambigu, d'artifice et de subtilité, et résolu dans votre voix. Et c'est pourquoi je vous rejette par la présente comme une personne condamnée par elle-même, avertie une première et une seconde fois, ou démasquée comme trompeur, ce qui est raison suffisante pour que je refuse de répondre à ces questions, ou à toute autre question future de votre part, car il n'y a aucun espoir qu'il en résulte du bien, à moins que vous ne vous rétractiez et ne vous repentiez. Ayant écrit ce rejet de vous, je sais que vous, étant des trompeurs, ne pouvez écrire quoi que ce soit qui vaille la lecture, en raison de toute rectitude qui s'y trouverait. Nous sommes satisfaits, et ainsi l'étaient très généralement les gens qui ont entendu notre discours, que vous, Quakers soi-disant, êtes des trompeurs, et de ceux que nous devons rejeter, et vous êtes endurcis dans votre mauvaise voie. Nous savons que vos écrits sont pleins d'équivoques et de mensonges, et ainsi se terminent les accusations de John Horne. Astérisque une bulle est un édit, des lettres patentes ou une charte du pape, munie d'un sceau particulier en plomb, une bulla, qui y était attachée pour authentification. Whitehead compare avec humour la lettre de Horne à un édit ou à une bulle papale. Remarque, quant au jugement et au rejet ici dénoncés contre moi et contre le peuple appelé Quakers, comme trompeurs, maudits, hérétiques, etc. Je suis pleinement assuré en ma conscience que ce n'est qu'un amas d'ordures infâmes et une raillerie présomptueuse, visant injustement à me diffamer et me calomnier, accusé faussement avec intention malveillante de diffamation. Moi et mes amis le dit peuple, et aussi grossièrement faux que cela soit, c'est de prétendre que les gens qui ont entendu notre discussion étaient, très généralement, si satisfaits que nous, qu'on appelle Quakers, ne sommes pas des trompeurs. Car la plupart des gens, à l'exception de quelques prosélytes méprisants de John Horne, furent courtois envers moi lors de cette discussion, et à la conclusion, beaucoup d'entre eux furent si aimables qu'ils prirent soin de veiller à ce que je sois escorté et conduit hors du chœur et de l'église à clocher, où nous avions eu la discussion, afin d'être sûr qu'aucun mal ne me fût fait par l'un des plus grossiers. Et le Seigneur, par sa puissance, s'est tenu près de moi de sorte que même ceux du groupe le plus rude, comptés comme de la populace, furent si modérés et si bienveillants qu'ils m'accompagnèrent pour me défendre. Car, comme je le croyais, j'ai senti la puissance du Seigneur sur tous pour modérer, calmer et apaiser leurs esprits, au-delà même des doutes et des craintes qui, auparavant, avaient quelque peu pénétré l'esprit de certains amis. Les amis s'attendaient à ce que les marins et d'autres gens plus dissolus soient alors laissés libres, et ils craignaient que nos adversaires ne les excitent en nous vilipendant et en nous couvrant d'opprobre. Mais béni soit le Seigneur notre Dieu, qui s'est tenu près de nous et nous a défendus, à lui qui a borné la mer et limité ses vagues, soit la gloire et la domination à jamais. Après ces discours publics et ces controverses avec John Horne et Thomas Maugier, ils publièrent encore deux livres contre le peuple appelé Quakers, l'un intitulé « Affûlé Discovery », par John Horne et Thomas Maugier et Thomas Maugier, et l'autre, intitulé avec Ventry Truth Triumph, par John Horne. George Whitehead donna une réponse à ses livres, intitulé Innocence Elevated Against Insolence. Cet ouvrage traitait et répondait au point en controverse plus encore que les réponses précédentes déjà mentionnées, et l'envie et les calomnies de ces hommes contre nous y sont aussi mises au jour, étant bien plus nombreuses que ce qui est spécifié ou même effleuré dans ce bref récit. Nos adversaires ci-dessus mentionnés, s'étant mis contre nous d'une manière implacable et s'acharnant, dans leur esprit persécuteur, à nouveau aux injures et aux reproches, ainsi qu'à notre sainte profession, afin d'imprégner l'esprit d'autres personnes de préjugés contre nous, cela fit peser sur moi, de la part du Seigneur, un plus grand souci, celui de visiter plus souvent cette ville de l'un et d'y tenir davantage de réunions pour l'amour de la vérité, et par bienveillance envers le peuple et par véritable amour de leurs âmes, afin qu'ils ne se... Et je tins, non seulement de nombreuses réunions importantes de nos amis et d'autres personnes dans cette ville, mais aussi plusieurs discussions publiques avec nos adversaires, notamment à deux reprises avec John Horne et Thomas Moore, comme déjà rapporté. J'eus aussi trois réunions publiques avec William Falcone, ministre ou prêtre presbytérien, à Lynn, mais non pas dans leur église paroissiale, comme on l'appelle, mais dans certaines maisons commodes de cette ville, Pour nous préparer à une discussion ou dispute publique, William Falconer proposa les 9 questions suivantes, auxquelles des réponses brèves sont pareillement données ici. Question 1. Y a-t-il 3 personnes dans la divinité ? Réponse. Nous ne lisons pas dans la Sainte Écriture qu'il y ait 3 personnes dans la déité, mais plutôt que 3 rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et que les 3 sont un. Question 2. Les Écritures sont-elles la règle pour éprouver les doctrines et les esprits ? Réponse. Les Saintes Écritures sont réellement reconnues et estimées comme une règle subordonnée au Saint-Esprit, dont elles ont été produites. Avec l'aide de ce même esprit, les doctrines et les esprits peuvent être éprouvés, mais l'esprit est le guide et la règle suprême et universelle, qui donne lumière et intelligence pour discerner et éprouver à la fois les esprits et les doctrines, à ceux qui sont vraiment animés d'un esprit spirituel, car le discernement des esprits est un don spirituel du Saint-Esprit. 1 Cor 12-10. Question 3. Les Écritures sont-elles la parole de Dieu et le moyen du salut ? Réponse 1. Les Écritures, CAD, les écrits ne sont pas à proprement parler la parole, mais Christ est la parole, au commencement était la parole, Jean 1-1-3 Apoc. 19-13. Ce que les Écritures n'étaient pas, bien que les Saintes Écritures contiennent les paroles, les saints commandements et la doctrine de Dieu et de Christ, et elles, CAD. Les Écritures ne peuvent être appelées la parole de Dieu au sens propre et strict, mais plutôt au sens figuré, les faits, les Écritures étant substitués à la cause, l'Esprit de Christ. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu, Hébreux 3, non par les Écritures. 2. Les Écritures ne sont pas universellement le moyen de conversion et de salut, car nous espérons que beaucoup peuvent être et sont convertis et sauvés, qui n'ont pas de Bible, et aussi beaucoup qui ne peuvent pas lire la Bible. Mais Christ, qui est donné pour être la lumière des gentils, est le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, il est le chemin vers le Père, et sa lumière est le moyen universel et efficace de conversion et de salut. 3. Parfois, la vraie prédication est un moyen de conversion et de salut par la puissance de Christ, et les Saintes Écritures, étant données par inspiration divine, sont rendues profitables par son esprit à l'homme de Dieu, en parlant d'une personne mûre en Christ, instruite par Christ, appelée et mandatée par Christ, et non de n'importe quel homme qui lit les Écritures, pour la doctrine, la répréhension et l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Et elles peuvent rendre sage quant à la voie du salut, mais c'est par la foi qui est en Jésus-Christ, lequel est donc la coefficient du salut, étant notre Sauveur béni et unique. Commentaire de l'éditeur du site, avant d'avoir besoin d'une expertise des Écritures, il vous faut être parfait. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Matt 5, 48 pas à peu près parfait. Pas aussi parfait que possible, pas aussi parfait qu'humainement possible en essayant, parfait comme votre Père Céleste est parfait, une qualification définitive de parfait. Une perfection impossible sans la grâce divine, pour nous changer, nous purifier, nous rendre semblables à lui parfait. La seule façon dont vous serez jamais parfaite est de demeurer en Jésus. Celui qui continue de se nourrir de moi vivra par moi et à cause de moi. Jean 6, 57. Laissez sa parole et sa lumière sonder votre cœur et vous en montrer les défauts, vous vous repentez, et lui vous transforme par grâce à un défaut à la fois. Après que vous serez parfait, Christ vous ouvrira personnellement les Écritures, vous montrant les événements au-dedans. Question 4. Y a-t-il en chaque personne une lumière suffisante pour l'amener à croire en Christ ? Réponse. Oui, Christ est la lumière du monde, cette vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et dont la lumière dirige et mène à celui qui la donne. Christ a exhorté à croire en la lumière, afin que vous soyez des enfants de la lumière. Par conséquent, sa lumière est suffisante pour amener les hommes à la foi en Christ et à croire en lui, même en son nom et en sa puissance. Question 5. Les croyants sont-ils justifiés par l'imputation de la justice de Christ, appliquée à eux par la foi, qu'il accomplisse en eux dans sa chair ? Réponse. Cette question n'est ni juste ni claire, mais obscure et ambiguë, les termes n'étant pas expliqués, elle peut se tourner équivalemment vers plusieurs sens. Toutefois, dans la simplicité et la franchise de la vérité, je réponds. 1. L'application ou l'imputation de la justice de Christ, lorsqu'elle est faite par lui-même, CAD. Par son propre esprit, aux croyants, qui appliquent véritablement leur cœur à lui obéir et à le suivre, sert à leur justification et à leur salut. Mais non pas si elle est éprouvée sans la sanctification de son Saint-Esprit et son œuvre au-dedans d'eux, ni par le fait que des hommes se l'attribuent ou s'appliquent à même la justice de Christ, ou son obéissance considérée seulement hors d'eux, tandis que le péché et la désobéissance demeurent en eux. Si je ne te lave, dit Christ, tu n'as point de part avec moi. 2. L'obéissance de Christ, même jusqu'à la mort de la croix, bien qu'elle ait été pour nous, afin de faire la paix et d'obtenir pour nous un grand bien, comme la miséricorde et la rédemption éternelle, ne nous justifiera ni ne nous sauvera pourtant, à moins que nous lui rendions aussi une obéissance sincère en nous. 3. Il y en a trop qui se complaisent. Oui, dans leur état souillé et pécheur, avec une foi fausse, s'imputant ou se contentant à eux-mêmes ce dont, en réalité, ils n'ont aucune part, comme la justice de Christ seulement, hors d'eux, tandis qu'eux-mêmes demeurent encore sales et injustes, ce qui ne correspond pas à l'état justifié des vrais croyants, qui sont lavés, sanctifiés et justifiés, au nom de notre Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Cor 6, 11. Commentaire de l'éditeur du site. Les guides aveugles veulent que nous nous reposions sur la « justice imputée de Christ » en notre faveur, sur la base de notre foi, comme ce fut le cas d'Abraham. Abraham fut imputé juste parce qu'il obéissait à la voix de Dieu. Nous sommes imputés justes après avoir crucifié notre nature pécheresse par l'obéissance sur la croix. Abraham fut ensuite circoncis, tout comme nous devons recevoir la circoncision spirituelle, notre cœur circoncis du péché. Comme Abraham exerça sa foi en quittant sa maison pour une nouvelle terre, de même nous renonçons au monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Non, nous devons aller à lui pour recevoir sa grâce purifiante afin de devenir justes, dont le fruit est la paix. L'effet de la justice sera le calme et la confiance pour toujours. Ésaïe 32, 17. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice. Rome 6, 16. Question 6. Tous les croyants, ou certains d'entre eux, atteignent-ils dans cette vie une telle perfection qu'ils soient sans péché? Réponse. Oui, ces vrais croyants qui sont nés de Dieu et demeurent en Christ, dont l'œuvre est de détruire les œuvres du diable, de mettre fin au péché, d'achever la transgression et d'amener la justice éternelle. Ces croyants atteignent, dans cette vie, une perfection sans péché. Question 7. La scène du Seigneur, administrée avec du pain et du vin, et le baptême d'eau, ne sont-ils pas des ordonnances permanentes de Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde? Réponse 1. Dans la première partie, il suppose ce qui est en question et impose sans le prouver que le pain et le vin distribués par le prêtre constituent la scène du Seigneur, car la scène du Seigneur Christ avec ses propres disciples ne consistait pas seulement en pain et en vin ou la coupe mais principalement en la Pâque, qui était typique et légale, et donc n'était pas une ordonnance permanente de Jésus-Christ, Luc 22, Matt 26, 18. 2. Le baptême avec de l'eau ou dans l'eau était le baptême de Jean, et non le baptême de Christ, ni une ordonnance permanente mais un ministère décroissant, ombreux ou typique. Et Jean, comme il préféra Christ à lui-même, préféra aussi le baptême spirituel de Christ au sien propre. La dispensation de Christ et de la nouvelle alliance est une dispensation de substance, non d'ombre, et plus le soleil monte haut et plus il brille, plus les ombres diminuent et s'enfuient. 3. Mais je tiens pour acquis que ce questionneur, le ministre presbytérien, par baptême d'eau n'entendait pas ce qu'était proprement le baptême d'eau comme celui de Jean, mais l'aspersion des nourrissons au visage. Ce qui n'est pas un vrai baptême, ni un baptême proprement dit, mais plutôt du rentrisme, pour lequel il n'y a aucun fondement dans les Écritures. Question 8. Le ministère actuel d'Angleterre que les Quakers injurient, n'est-il pas le véritable ministère de Christ? Réponse. Que nous les injurions, cela n'est pas vrai, toutefois nous ne les croyons pas être le véritable ministère de Christ, ni appelés par Christ à être ses ministres, car si nous le croyions, nous ne nous séparerions pas d'eux. Et la même cause de séparation que nous avions en ces jours-là, c'est-à-dire, sous le Commonwealth ainsi appelé, nous l'avons encore, à savoir la grande corruption, l'avarice et l'orgueil des prêtres et des ministres. Question 9. Le même corps qui meurt ressuscitera-t-il? Réponse. Pour répondre, je renvoie à la réponse de l'apôtre à une question semblable, qui était, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Sa réponse, par allusion et comparaison, fut « insensé, ce que tu sèmes ne reprend vie que s'il meurt, et ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui doit être, mais un simple grain, peut-être de blé ou de quelque autre semence, mais Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence son propre corps. » Et pour parler plus clairement, en niant l'identité ou la similitude du corps, il dit « Or, je dis frère que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. » William Falcon a promis d'avance de disputer des 7e et 8e questions en tout temps et en tout lieu, et à des conditions qui seraient jugées convenables par quelques hommes de chaque parti, et qu'il prouverait que le ministère d'Angleterre est le ministère de Christ. Il fit cette promesse chez Isabelle Barnet, à Lynn, le 17 au jour du 8e mois, 1659. Mais lors de notre première dispute ou entretien, nous n'en vîmes pas aux 7e et 8e questions, mais à certaines des questions précédentes. Lorsque nous nous fûmes réunis dans une grande pièce, néanmoins assez petite pour contenir les gens, je donnai une réponse à sa première question, selon l'Écriture, et dans le même sens que je l'avais déjà faite auparavant. Mais cela ne le satisfit pas, à moins que je ne réponde à sa question dans ses propres termes, CAD. Au sujet des personnalités ou des trois personnes distinctes dans la Déité. Comme il souhaitait prouver ces termes par l'Écriture, il insista en partie sur le psaume 2, 7. « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Mais par là, il ne prouvait pas les termes « trois personnes dans la Déité » ni trois personnalités distinctes également éternelles dans la divinité, selon leurs principes. Car ils ne pouvaient nier que Christ, le Fils de Dieu, avait été engendré dans le temps, et que « aujourd'hui je t'ai engendré » était un acte dans le temps, et pourtant le Fils de Dieu, la parole éternelle, était en Dieu et avec Dieu de toute éternité avant les jours et le temps, et au temps voulu, il procéda et sortit de Dieu. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. La Trinité de la Sainte Écriture, ou les trois qu'elle vise, nous ne l'avons jamais contestée mais l'avons crue, de même que l'unité d'essence qu'ils sont une seule substance, un seul être divin et infini, et nous ne mettons pas non plus en question, mais croyons sincèrement les propriétés relatives de Père, Fils et Saint-Esprit, selon le témoignage de la Sainte Écriture, Matt 28-19, et que ces trois sont un. 1 Jean 5-7. William Falcone, manquant de preuves scripturaires pour leur terme, trois personnes dans la divinité, notre entretien sur ce point, et sur la première question, s'éteignit bientôt, et sans difficulté pour nous, George Fox Jr., étant également avec moi lors de notre premier entretien avec William Falcone. Je me souviens bien d'une conférence que nous eûmes avec le Dr Tennyson, archevêque de Canterbury, en présence de nos amis Gilbert Lattay et du Dr Thomas Lowe, l'évêque et moi, dans une discussion amicale au sujet de la Trinité quant à leur définition d'une personne, de ce qu'est une personne. Je dis à l'évêque que j'avais discuté avec beaucoup, surtout parmi les savants sur ce point, et que sur la définition d'une personne, ou sur ce que signifie le mot « personne », je ne les avais jamais trouvés cohérents mais se contredisant eux-mêmes sur leur propre article de foi, comme lorsqu'ils définissent ainsi la personne à savoir un être intelligent ou une substance individuelle de nature rationnelle, comme Thomas d'Aquin qui a été cité contre nous l'a dit, une personne est une substance individuelle de nature rationnelle, qui n'est ni. En mentionnant cela à l'archevêque, je lui dis qu'affirmer trois personnes dans la déité était faux parce qu'elles ne sont pas trois êtres, ni trois substances. J'avouais que je n'avais jamais pu concilier qu'il y ait trois personnes distinctes ou séparées, et non pas trois substances, mais une seule substance ou un seul être, parce qu'une personne est, selon leur propre compte, une substance rationnelle. Et puisqu'ils estimaient blasphématoire de tenir la bienheureuse Trinité pour trois substances ou trois êtres, ce qui en ferait trois dieux, comment donc sont-ils trois personnes distinctes, CAD, des substances rationnelles? Cela, comme je le dis à l'archevêque, je ne l'ai jamais pu concilier, car s'ils ne sont pas trois substances distinctes, ils ne sont pas trois personnes distinctes. À quoi il répondit ingénum, il est plus sûr, ou meilleur, de s'en tenir aux mots ou termes de l'Écriture pour exprimer de telles choses graves de la foi concernant la Déité, et de ne pas les exprimer en termes métaphysiques de philosophie, ou autres semblables, qui ne se trouvent pas dans la Sainte Écriture. Et vraiment, je fus heureux d'entendre de lui une confession aussi honnête, car c'était eux qui avaient employé au départ les termes d'êtres et de substances. Quant à la deuxième question et à la première partie de la troisième, nous eûmes peu de controverses après avoir donné la prééminence au Saint-Esprit sur les Écritures, comme étant le guide et la règle principaux, et les Saintes Écritures comme vraiment utiles à leur place, avec l'aide et la direction de l'Esprit, et la parole Christ comme supérieure aux Écritures. Mais sur la seconde partie de la troisième question, à savoir si les Écritures sont le moyen de conversion et de salut, et sur la quatrième question, sur la suffisance de la lumière en l'homme pour l'amener à être un vrai croyant en Christ, ce qui tente à résoudre la conclusion de la troisième, lorsque l'on répond véritablement et qu'on distingue entre la parole intérieure, la lumière et les Écritures. Ici s'éleva la principale controverse, le prêtre donnant la préférence aux Écritures, à partir du texte de 2 Pie 1:19. Nous avons une parole prophétique plus certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Prêtre voulait que cette parole plus certaine fût les Écritures des prophètes, ce que je fus contraint de contester astérisque en considérant où et entre quoi consistait la comparaison de paroles plus certaines, à savoir entre la voix venue du ciel sur Christ sur la montagne, que Pierre, Jacques et Jean entendirent, et la parole, la lumière ou l'esprit de prophétie, dans le cœur de ces croyants qui n'avaient pas entendu cette voix du ciel, ni n'étaient là avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, lorsqu'ils entendirent cette voix de l'excès. Pourtant cette voix était certainement vraie, Christ était le Fils bien-aimé de Dieu, qu'ils avaient ordre d'écouter. Il n'est pas dit, vous avez aussi une parole plus vraie de prophétie, mais une parole plus certaine, elle était plus certaine pour ce qu'ils avaient dans leur cœur, à laquelle ils pouvaient constamment prêter attention, et qui les guidait vers le lever de l'étoile du jour dans leur cœur, même l'étoile brillante du matin. Je dis que cette parole, cette lumière qu'ils avaient dans leur cœur, devait leur être plus certaine que cette voix qu'ils n'avaient jamais eue ni entendue, cette voix ayant été entendue spécialement et particulièrement par trois disciples, non par tous les croyants, mais cette parole ou lumière intérieure est généralement manifestée et demeure dans les croyants qui attendent l'apparition de Christ en esprit. Astérisque, George Fox s'opposa de façon similaire à cette interprétation maladroite de l'Écriture. Extrait de son journal. Alors que j'allais vers Nottingham un premier jour au matin, avec des amis pour une réunion là-bas, lorsque j'arrivai au sommet d'une colline d'où l'on voyait la ville, j'aperçus la grande église à clocher. Et le Seigneur me dit, « Tu dois aller crier contre ce grand idole lointain et contre les adorateurs qui sont à l'intérieur. » Je ne dis rien de cela aux amis, mais j'allai avec eux à la réunion, où la puissante puissance du Seigneur Dieu était parmi nous. Et tandis que je laissais les amis assis dans la réunion, je me rendis à l'église à clocher. Quand j'y arrivai, tout le peuple ressemblait à une terre en jachère, et le prêtre, comme une grosse motte de terre, se tenait dans sa chair au-dessus. Il prit pour texte ces paroles de Pierre, « Nous avons aussi une parole prophétique plus certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Il dit au peuple que c'étaient les Écritures par lesquelles il devait éprouver toute doctrine, religions et opinions. Or la puissance du Seigneur était si forte sur moi, et si puissante en moi, que je ne pouvais me contenir, mais je fus poussé à crier. Oh ! Non, ce ne sont pas les Écritures, et je leur dis ce que c'était, à savoir le Saint-Esprit, par lequel les saints hommes de Dieu produisirent les Écritures, par lequel il fallait éprouver les opinions, les religions et les jugements, car il conduit dans toute la vérité et donne ainsi la connaissance de toute la vérité. Car les Juifs avaient les Écritures, et pourtant résistèrent au Saint-Esprit, rejetèrent Christ, la brillante étoile du matin, persécutèrent Christ et ses apôtres, et entreprirent d'éprouver leur doctrine par les Écritures, mais se trompèrent dans leur jugement et ne les éprouvèrent pas correctement, parce qu'ils les éprouvèrent sans le Saint-Esprit. Le prêtre voulait que cette parole prophétique plus certaine, vers laquelle Pierre les dirigeait, fût les Écritures des prophètes qui avaient prophétisé la venue de Christ avant qu'il ne vienne. À quoi je répondis, la voix de l'excellente gloire que Pierre, Jacques et Jean entendirent lorsqu'ils étaient avec Christ sur la montagne, témoignait que Christ était venu, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Par conséquent, cette voix et ce témoignage ainsi exprimé pour eux devaient être plus certains que les Écritures des prophètes, écrites avant qu'ils ne soient venus. Ce serait une non petite perversion des paroles de Pierre que de les tourner ainsi. Bien que nous ayons une voix et un témoignage du ciel que Christ, le Messie, est déjà venu, vous avez pourtant aussi des Écritures des prophètes plus certaines, qui vous annoncent et vous déclarent que le Messie doit venir, et que vous faites bien d'y prêter attention jusqu'à ce qu'il vienne. Cela nie que Christ soit déjà venu, contrairement au témoignage qui venait d'être rendu de lui comme étant le Fils du Père depuis le ciel, à et par trois de ses témoins fidèles et dignes de foi, Pierre, Jacques et Jean. Et bien que cette voix du ciel fût sûre et certaine pour ceux qui l'entendirent les trois disciples seulement, pourtant cette parole, cette lumière de Christ, qui apparaît en beaucoup comme une lumière brillant dans un lieu obscur, même dans des cœurs obscurs, leur est plus certaine que cette voix ou cette vision qu'ils n'ont pas entendue ni vue telle que rapportée comme prophétie dans l'Écriture. Cette parole ou cette lumière sera connue comme un guide et une règle très sûre, elle prophétisera, ouvrira et montrera les choses à venir, surtout à ceux qui font bien, CAD. En y prêtant attention en temps opportun. Ce point au sujet de la parole plus certaine fut celui qui se maintint le plus longtemps en dispute. Mais je plaidais la chose si étroitement, le Seigneur se tenant près de moi et m'assistant, que le prêtre sembla s'abaisser en son esprit, comme quelqu'un sous une certaine conviction lorsque sa logique le trahit. Ce qui étant observé, George Fox le jeune l'appela à considérer ce qui le convainquait dans sa propre conscience de la vérité qui lui avait été démontrée, à quoi il ne fit aucune réponse que je me souvienne, mais par il y eut peu de discussion, voire aucune, à ce moment-là sur les 4, 5 et 6 questions, au sujet de la suffisance de la lumière dans les hommes, de la perfection et de la justification, je ne m'y arrêterai donc pas ici, et il n'est pas nécessaire que je le fasse, y ayant déjà répondu. À notre seconde réunion, beaucoup de personnes notables et d'autres habitants de l'Inde s'assemblèrent et furent généralement courtois comme auparavant. William Falcone avait quelque temps auparavant promis de prouver que le ministère d'Angleterre était le véritable ministère du Christ, en réponse à sa 8 questions, ce qu'il affirma alors, mais ne pouvait accorder, et je l'obligeai à en apporter la preuve à plusieurs égards. 1. Parce qu'il ne pouvait être le ministère, les ministres ou les messagers de Christ, à moins d'avoir été appelés, dotés, qualifiés et envoyés par lui, comme ces ministres et messagers doivent l'être astérisque, mais de cela le prêtre n'apporta aucune preuve ni démonstration d'après, ou conformément à la Sainte Écriture. L'imposition des mains du presbytère sur lui pour approbation, alléguée d'après 1 Tim 4:14, ne pouvait attester que cette personne fut dotée ou appelée par Jésus-Christ à son ministère. Cela ne pouvait prouver qu'il fut ainsi qualifié ou doté, ou ministre de Christ, comme Timothée l'était, car les anciens qui donnèrent leur approbation à Timothée, et le signifièrent par l'imposition des mains, savaient sans doute qu'il était bien doté et qualifié pour être employé à l'œuvre du ministère de Christ, car Paul l'exhorta ainsi dans le passage même invoqué, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du presbytère ou des anciens, dont Paul était l'un. » 2 Timothée 6 Astérisque les ministres de la chrétienté ne sont pas instruits par la voix et la lumière du Seigneur, ne sont pas rendus parfaits par le Seigneur, ne sont pas dotés d'un ministère autorisé, ne sont pas envoyés par le Seigneur, et ne prononcent pas des paroles provenant de l'Esprit du Seigneur, au contraire, ils parlent depuis leurs esprits charnels, la nature de la mort, et prêchent leurs vaines opinions issues de l'imagination de leur cœur mauvais. Comme Jésus l'a dit, « Celui qui parle de lui-même, de sa propre pensée, cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Jean 7, 18 Ce presbytère, ou compagnie d'anciens, reconnaissait alors à la fois le don divin intérieur et la prophétie, dont Timothée participait pour le préparer à son ministère, et fut approuvé par ses anciens en Christ qui connaissaient Timothée. Aussi ne pouvions-nous croire que ceux de ce presbytère, qui étaient de la société de William Falcone, puissent soit le faire, soit le confirmer comme ministre de Christ, ou prouver qu'il ait été appelé par Christ à son ministère. Pas plus que s'il avait argumenté ainsi. Puisque Timothée et Tite étaient ministres de Christ et approuvés et encouragés par saint Paul, donc moi, William Falcone, je suis ministre de Christ, approuvé par mes frères du presbytère, ce qui serait une bien pauvre manière d'argumenter, selon laquelle tout faux prétendant peut revendiquer une part dans le ministère de Christ. Mais aucun homme sincère et honnête, ni aucun ministre de Jésus-Christ, ne dira ni n'argumentera que puisque Pierre et Paul furent ministres et ambassadeurs de Christ. 2. Leur éducation dans leurs académies, écoles et collèges, pour apprendre et étudier les arts et sciences naturelles, la philosophie et la théologie, etc. Et le fait d'estimer un tel apprentissage et de telles acquisitions essentielles à leur ministère, ou nécessaires pour les qualifier comme théologiens ou ministres de l'Évangile, ou à cet effet, fut opposé à leur prétention d'être ministres de Christ. 3. De plus, leur collège érigé par des papistes dans les temps obscurs de la papauté, et beaucoup d'entre eux portant des noms de saints. Cela aussi fut objecté contre leur ministère, comme n'étant pas appelé par Christ, mais établi par l'homme, et selon la volonté de l'homme. Le principal argument ou prétexte du prêtre en faveur de leur collège était qu'il y avait un collège à Jérusalem. 2 Rois 22, 14, 2 Chron 34, 22. Je montrai à l'Assemblée que ce n'était pas une preuve ni une garantie suffisante pour leur collège actuel, afin d'y éduquer des hommes pour le ministère de Christ, ou d'en faire des ministres de Christ, par l'apprentissage naturel et l'étude dans ces collèges. Cela ne pouvait être une preuve de l'appel ou du ministère de Christ. Dans ce collège ou seconde cour, comme on l'appelle à Jérusalem, habitait Hulda la prophétesse, vers qui Josias, roi de Juda, envoya Ilkija le prêtre et d'autres, pour consulter l'Éternel pour lui, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles du livre de la loi, lorsqu'il fut lu devant le roi. 2 Rois 22. Il y avait là une bonne femme, une prophétesse, qui demeurait dans ce collège, ou seconde cour, vers laquelle le roi envoya un prêtre et d'autres de ses serviteurs pour conseil. Il apparaît que le roi avait plus confiance en cette femme qu'en le prêtre, croyant aussi qu'elle avait davantage du conseil de Dieu, et plus d'intelligence de sa loi et des jugements écrits en elle que le prêtre n'en avait, autrement il n'aurait pas eu besoin d'envoyer le prêtre auprès d'elle pour conseil. Elle avait l'esprit et le don de prophétie pour découvrir les jugements lorsqu'ils venaient ou s'approchaient, tels qu'ils étaient annoncés dans la loi de Moïse. C'est par ce don divin, comme il apparaît, qu'elle pouvait expliquer la loi mieux que les prêtres. Pourtant, elle n'avait pas de connaissance ni de savoir provenant du collège, ni par l'apprentissage naturel, car elle était prophétesse pourvue de l'esprit et du don de prophétie, qui ne venait pas de la volonté de l'homme, ni n'était de l'homme, mais de Dieu et de lui. Tandis que ces collèges plaidaient leur droit de faire des ministres, C.A.D. Le ministère d'Angleterre, il ne pouvait pas faire des ministres tels que la prophétesse ci-dessus. Et les collèges ne reconnaissent même pas la possibilité de prophète ou de prophétie en ce jour. Ils disent que la prophétie et les révélations ont cessé, en vérité, elles ont cessé pour tous les faux prophètes, comme beaucoup de prêtres l'ont déclaré, et comme ils concluent généralement. Par conséquent, ils n'ont aucun appel divin ou immédiat de Christ à son ministère, mais seulement un appel humain des hommes, après avoir été éduqués dans le savoir humain, sans être qualifiés ou dotés par le Saint-Esprit. Cependant, nous admettons et reconnaissons le savoir humain à sa place, comme utile et nécessaire à bien des égards, sauf pour former au ministère. Mais nous ne l'idolâtrons pas au point de penser que des hommes puissent ainsi être faits théologiens astérisques ou ministres de Jésus-Christ, car ils doivent relever de l'éducation et de l'appel propre de Christ. Et quelle autorité ont-ils, soit le presbytère, soit l'épiscopat, pour autoriser d'autres à être ministres de Christ, alors qu'eux-mêmes ne sont pas autorisés par son esprit et sa puissance, C.A.D. Le même esprit que les saints apôtres, les anciens primitifs et les surveillants avaient. Assurément, leur cérémonie de l'imposition des mains ne peut transmettre une telle autorité, un tel esprit et une telle puissance, ni leur donner une autorité divine. Astérisque, un théologien était quelqu'un qui avait étudié la Bible en grec, en latin et en hébreu, devenant ainsi expert des langues divines. En fait, on l'appelait un théologien. George Fox ridiculisait souvent cette distinction et ce titre, disant que, selon cette qualification, Pilate, le gouverneur romain qui crucifia Christ, fut le premier théologien, car Pilate avait écrit une inscription dans les trois langues disant « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs », qu'il avait placé en haut de la croix. Notre entretien au sujet de leur collège ne se prolongea pas beaucoup, et la réunion se termina de manière courtoise et paisible. L'auditoire fut déçu que leur pasteur n'ait pas prouvé que le ministère de l'Église d'Angleterre était le véritable ministère de Christ, ce qu'il est impossible de prouver, tant à l'égard de leur appel que de leur conduite et de leur pratique. Nous avons constaté que ces ministres fabriqués par les collèges manquent de tout cela, car les véritables ministres de Jésus-Christ étaient exempts d'orgueil et d'avidité, prêchant l'Évangile gratuitement à tous, comme Christ, leur Seigneur et Maître, le leur avait ordonné. Mais cela n'était pas vrai des prêtres et ministres d'Angleterre, orgueilleux et cupides. Nous eûmes une autre réunion chez notre amie Isabelle Barnet, à Lynne, dans un grand salon, au cours de laquelle fut abordée la septième question de William Falcone, au sujet du baptême d'eau et de ce qu'il appelait la scène du Seigneur, estimant l'un et l'autre comme des ordonnances permanentes de Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde, selon sa question citée plus haut, qu'il affirmait exiger de sa part une preuve. Comme j'avais un avis négatif, il m'accusa de nier toutes les ordonnances, ce qui n'était pas vrai, et ne pouvait être justement inféré contre moi de ma récitation de Col 2:20-22. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à des ordonnances? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui toutes périssent par l'usage, selon les commandements et les doctrines des hommes. Cet exemple ne pouvait être un déni de toutes les ordonnances, ni d'aucune de celles qui demeurent en vigueur et doivent continuer par institution divine, dans la dispensation de la Nouvelle Alliance, laquelle ne consiste pas en des ordonnances charnelles, ni en des institutions ou impositions humaines, ni encore en des choses élémentaires, typiques ou ombreuses, mais est une dispensation d'esprit, de vie et de substance. Christ a été ordonné et établi par Dieu pour être notre souverain sacrificateur et ministre de cette alliance nouvelle et éternelle. William Falcone invoqua Matthieu 28:19 et Actes 10:47 pour soutenir que le baptême d'eau est une ordonnance du Christ qui doit continuer jusqu'à la fin du monde. Il restait ainsi en défaut, bien qu'il ait utilisé comme preuve l'argument des baptistes, car sa pratique et la leur diffèrent. Eux baptisent des croyants tels qu'ils les décrivent et lui aspergent des nourrissons. Mais en réponse aux Écritures invoquées, 1. Il n'est pas fait mention d'eau dans la première, allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant, ou plutôt les baptisant dans, le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ici, il n'est pas fait mention d'eau, leur ministère évangélique était un ministère spirituel, puissant, baptisant jusque dans le nom, la puissance et l'Esprit de notre Père Céleste, et ou de son Fils Jésus-Christ, et de son Saint-Esprit. Car comme l'a dit l'apôtre, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. 2. Les questions ou l'ordre de Pierre à ces gentils, mentionnés en Actes 10, 47-48, ne prouveront pas non plus que le baptême d'eau soit une ordonnance permanente du Christ jusqu'à la fin du monde, car le baptême d'eau était le baptême de Jean, diminuant et cédant la place au baptême du Christ, et ayant été toléré dans l'enfance de l'Église, pour marquer du respect envers ces gentils croyants, aussi bien qu'envers les Juifs. Tout cela ne prouve pas que ce soit une ordonnance du Christ, ni qu'elles doivent subsister jusqu'à la fin. Le baptême d'eau n'était pas davantage inclus dans la commission de Paul, comme William Falcone l'affirmait, car Paul déclare le contraire, « Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et ces mots ne sauraient recevoir une interprétation telle que celle-ci, que le baptême n'était pas la chose principale pour laquelle il avait été envoyé, comme William Falcone les interprétait. » Paul n'a pas dit, « Christ ne m'a pas envoyé seulement baptiser, mais aussi prêcher, mais positivement, Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile. » C'est la raison générale et évidente qu'il donne lorsqu'il remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun d'eux, et aucun autre que Crispus et Gaius, et la maison de Stéphana. Sa raison particulière était « de peur que quelqu'un ne dise que j'ai baptisé en mon nom ». Mais sa raison générale est plus étendue, car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile. Assurément, s'il avait eu commission de baptiser autant que de prêcher, il n'aurait pas renié sa commission, ni rendu grâce à Dieu de l'avoir négligé, ou de ne l'avoir accompli qu'à si peu de personnes, bien loin du nombre de celles à qui il prêcha. C'est en substance ce sur quoi j'insistais. On peut donc en conclure rationnellement, premièrement, que si Paul n'a pas été envoyé pour baptiser, c'est-à-dire avec de l'eau, mais pour annoncer l'Évangile, la commission qu'avaient les autres apôtres, Matthieu 28:19, n'inclut ni ne vise le baptême d'eau, car la commission de Paul était aussi large et compréhensive que celle des autres, il avait tout le conseil de Dieu à déclarer, n'étant en rien inférieur aux apôtres les plus éminents. Par conséquent, son fait de baptiser quelques personnes à Corinthe doit être plutôt une condescendance qu'un acte fondé sur une commission du Christ. Mais quelle insincérité ou hypocrisie que pour l'un de ses ministres ou prêtres, d'employer les arguments de ce qu'on appelle anabaptiste, afin de soutenir que le baptême d'eau doit continuer en ce jour de l'Évangile, à partir de Matthieu 28-19 et Actes 10-47, alors qu'ils n'entendent pas par là ce qui est le véritable baptême d'eau mais l'aspersion du visage des nourrissons avec un peu d'eau, alors qu'ils savent que l'aspersion est du rentrisme, et non un baptême comme Jean baptisait dans le fleuve. Ainsi mon adversaire finit par plaider en faveur du prétendu baptême des nourrissons, ainsi mal nommé, en ces termes, que de même que la promesse était à Abraham et à sa descendance, de même tous les nourrissons des croyants sont, de manière visible, membres de l'Église, et ont droit aux privilèges extérieurs de l'Alliance de l'Évangile comme leurs parents, et ont donc droit au baptême d'eau, comme toute la descendance d'Abraham avait droit à la circoncision. C'est un argument ancien, usé et déchiré, encore avancé sans aucune preuve scripturaire, ni que l'aspersion des nourrissons soit un véritable baptême, ni que ce soit un privilège de l'Alliance de l'Évangile, ni que Christ l'ait établi et ordonné à la place de la circoncision, comme si celle-ci avait été un type de l'aspersion des nourrissons. Mais nous n'avons aucune preuve scripturaire pour aucune de ces choses, ni pour attribuer quoi que ce soit de cela à cette tradition humaine consistant à asperger d'un peu d'eau le visage des nourrissons, mâles et femelles, alors que seuls les mâles de la descendance d'Abraham étaient circoncis. Comment donc la circoncision pourrait-elle préfigurer ce baptême des nourrissons, appliqué aux mâles comme aux femelles comme on le nomme à tort? Lorsqu'on cita un Cor 12-13, disant que c'était le baptême de l'Esprit par lequel les vrais croyants étaient baptisés dans l'Église, William Falcon redit que cela se rapportait au baptême d'eau, tout en reconnaissant qu'il y avait un baptême intérieur de l'Esprit et un baptême extérieur d'eau, par lesquels on était baptisé dans l'Église ou le corps du Christ, ajoutant ainsi aux mots exprès du texte, « Nous avons tous été baptisés par un seul Esprit pour former un seul corps. » Il ne dit pas « Nous avons tous été baptisés par deux baptêmes, celui de l'eau et celui de l'Esprit, pour former un seul corps. Par conséquent, l'unique baptême qui sauve et unit est celui de l'Esprit, comme il y a un seul corps et un seul Esprit, ainsi il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. » Éphésiens 4:5. De toute évidence, de même qu'il n'y a pas plusieurs Seigneurs, il n'y a pas plusieurs baptêmes. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4:5 concernant leur sacrement de pain et de vin, selon leur terme, appelé la scène du Seigneur, il dit que la Pâque n'était pas incluse dans la scène du Seigneur, ce qui était expressément contraire à l'Écriture la plus claire. La Pâque fut préparée ou apprêtée comme Christ l'exigea de ses disciples, et lui et eux la mangèrent à son souper, Luc 22, Matthieu 26. Et il apparut que ce fut la partie principale de leur dernier souper, lors de la fête de la Pâque, qui était une fête, un souper et un type légal, accompli et achevé par Christ. Nous n'avançâmes pas beaucoup sur ce point, notre ami Thomas Brigg, qui était avec moi, rendit un puissant témoignage à Christ, comme étant le pain de vie descendu du ciel, la substance et la fin des ombres, et celui qui donne vie et nourriture à l'âme immortelle. Après que nous eûmes discouru peu de temps sur ce sujet, un homme hors de lui se leva dans la réunion, qui était bondé. Il fit un vacarme affreux et se montra clamant, ce qui jeta le peuple dans une grande agitation et un tumulte, beaucoup étant surpris et effrayés par le vacarme qu'il faisait et par l'émeute qu'il provoquait. William Falcon, le prêtre lui-même, parut extrêmement stupéfait et effrayé, au point qu'il n'était plus en état de disputer contre les Quakers, et certains de ses auditeurs prirent grand soin de le faire sortir de la maison en sûreté, car il était bien aise de partir. Ainsi en peu de temps ils le pressèrent hors de la réunion et de la maison, et il sortit en tremblant, tenant par la main en sortant un de nos amis qui me l'a raconté, l'homme qui fit ce trouble dans la réunion fit de même un trouble à l'autre réunion. Bien que cette personne turbulente eût été en partie convaincue de la vérité et qu'elle eût, pendant un temps, fréquenté les réunions de nos amis, elle n'avait pourtant pas gardé son esprit bas et humble, dans la mesure de lumière qui lui était donnée, afin de sentir et de comprendre la puissance et l'esprit du Christ opérant en elle pour la sanctification et le renoncement à soi. Ainsi elle devint présomptueuse et s'éleva dans ses imaginations. Elle érigea une justice et se fit une croix de sa propre imagination, pensant qu'elle se rendrait ainsi plus juste que tous les autres amis, et juge de tous. Mais l'ennemi de son âme prévalut pour précipiter et déranger son esprit, si bien qu'elle passa d'une justice propre et d'une singularité à courir dans la confusion, des imaginations vaines et égarées, et un comportement turbulent, bien que je ne doute pas qu'elle n'ait reçu des instructions et des avertissements suffisants et opportuns en sens contraire. J'eus de bonne heure, en esprit, des impulsions à visiter la ville de Norwich et le comté de Norfolk, en l'année 1654, et parmi d'autres lieux du même comté, à visiter Buckingham, Jessing et Pulham Side. Dans ces régions, je croyais que le Seigneur avait un peuple à faire paraître, comme cela arriva ensuite. Ayant entendu parler de Thomas Benton, maître ou pasteur renommé d'un groupe indépendant aux environs de Pulham, je crus que certains d'entre eux, sinon beaucoup, seraient rassemblés d'entre eux, hors de leur profession et de leur culte formel, vers la lumière, la vie et la puissance de Dieu et de Jésus-Christ. À un moment donné, étant informé que Thomas Benton devait prêcher à une conférence, lecture à 10 dans le Norfolk au printemps 1655, je ressentis un poids m'incitant à aller à l'église. Mon cher ami Robert Duncan m'accompagna, et j'y restai et entendis Benton prêcher jusqu'à ce qu'il eût terminé. Alors je fus poussé à l'interpeller et à lui dire « Tu as été pesé et trouvé trop léger ». Et cela fut ensuite vérifié par une épreuve plus approfondie, comme je vais le rapporter. Il parut quelque peu ému et offensé de ce que je lui disais, et prévenu contre le peuple appelé Quakers par un livre de prêtres venus du Nord. Si je me souviens bien, il s'intitulait « Le parfait pharisien sous une sainteté monacale », distribué par les prêtres de Newcastle. Quoi qu'il en soit, je fus rapidement poussé hors de l'église par son instigation, alors je montai sur une tombe ou pierre sépulcrale et prêchai la vérité avec puissance et simplicité, montrant la stérilité et l'inutilité du peuple sous de tels ministres, et leur ministère mort, et comment les vignes de tels vignerons étaient envahies de ronces et d'épines, et quel sujet ils avaient de hurler et de se lamenter. Le peuple m'écouta tranquillement pendant un assez long moment, mais quelques personnes grossières, après que je fus descendu, voulurent me mettre au pilori, d'autres, dont l'un était l'instituteur, les en empêchèrent. J'eus alors amplement le temps de décharger ma conscience. Plus de 4 années après cette réunion, j'obtins une réunion publique avec Thomas Benton, dans son église paroissiale, comme on l'appelle, à Pulham, le 4 jour du 8e mois 1659. Les principaux points de notre controverse étaient 1. La lumière intérieure, ou en l'homme, et 2. Les ministres prenant la dîme de leurs auditeurs en ce temps de l'Évangile. Le premier, je le défendais, à savoir la lumière de Dieu et du Christ en l'homme. Le second, je le combattais, à savoir les dîmes, etc. La première question posée à Thomas Benton pour discussion fut de savoir si tout homme dans le monde est éclairé d'une lumière spirituelle, oui ou non. Sa réponse fut qu'il niait que tout homme soit éclairé d'une lumière spirituelle, mais seulement d'une lumière naturelle, comme la lumière de la raison, la lumière de la création, ou choses semblables. Toutefois, il reconnut que tout homme est éclairé par le Christ en tant que créateur, mais non en tant que médiateur. En cela, son inconséquence était manifeste, car si tout homme est éclairé par le Christ comme créateur, alors tout homme est éclairé d'une lumière spirituelle et divine. Puisque le Christ est créateur, il est une lumière divine et spirituelle, et la source de la lumière, car Dieu est esprit, et aussi lumière, en qui il n'y a point de ténèbres. Néanmoins, Thomas Benton reconnut que le mot « éclairé » s'entend d'une lumière intérieure, dans l'âme, mais qu'il ne pouvait pas interpréter pleinement ce passage, Jean 1, 9. En cela, il montra une certaine droiture en confessant sa faiblesse. Et l'on peut observer qu'il ne démontra pas par l'Écriture sa distinction de deux lumières différentes en l'homme, l'une venant du Christ comme Créateur, qui ne serait qu'une lumière naturelle en tous les hommes, et une autre lumière, spirituelle, venant du Christ comme Médiateur, seulement en certains hommes. Le Christ lui-même parle plus clairement et plus généralement « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Mais rendre « naturelle » la lumière du Créateur, ou la raison naturelle, et spirituelle la lumière du Christ, ce n'est pas seulement diviser la lumière, qui est une, mais placer la lumière du médiateur au-dessus de la lumière du Créateur. Jean l'Évangéliste rendit témoignage au Christ, la parole, qui était avec Dieu et qui était Dieu, qu'il était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde, et qu'en lui était la vie, et que la vie était la lumière des hommes, Jean 1:1-4:9. Cette vie de la parole éternelle est au-dessus de toute lumière naturelle ou raison naturelle, car elle est un principe divin de vie et de lumière. Et Dieu, qui a commandé que la lumière resplendisse du sein des ténèbres, a resplendi dans nos cœurs, dans quel but? Pour nous donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, sur le visage de Jésus-Christ, 2 Cor 4. Ainsi, avant que cette connaissance ou ce degré de lumière ne nous soit donné, Dieu resplendit dans nos cœurs pour nous le donner. Et c'est toujours la lumière et la gloire d'un seul, et même Dieu et de Jésus-Christ, révélés et manifestés en nous graduellement. De plus, nous devons considérer que le Christ, étant Dieu et homme, n'agit pas et ne donne pas de dons spirituels séparément de Dieu le Créateur, qu'il s'agisse de lumière, de grâce, d'esprit, de puissance ou de sagesse, car Jésus-Christ, lorsqu'il parle en tant qu'homme ou en tant que médiateur, donne toujours la préférence au Père céleste, comme lorsqu'il a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père, et mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis ». Et de même, toute puissance, gloire, esprit, vie, lumière et sagesse que le Fils a donné ou a communiqué aux hommes, surtout aux vrais croyants, ses disciples, tout lui est d'abord donné par le Père. Il a reçu des dons pour les hommes, oui, même pour les rebelles, afin que l'Éternel Dieu demeure au milieu d'eux, psaume 68-18. De qui les a-t-il reçus sinon de son Père céleste? Comme notre Père céleste et son cher Fils ne sont pas divisés, leur lumière ne l'est pas non plus, c'est une seule lumière et une seule vie indivisible, la plénitude du Père habite dans le Christ, le Fils du Dieu vivant, en qui il a plu au Père que toute plénitude habita, Col 1-19, et de lui donner toute puissance dans le ciel et sur la terre, Matt 28-18. Quoiqu'à chacun de nous, la grâce soit donnée selon la mesure du don de Christ, F 4-7. Ce qu'il possède en plénitude de lumière et de grâce, lui qui a reçu l'Esprit sans mesure, dans une immensité ou une plénitude immense, il nous le donne avec mesure, et la connaissance en est graduelle, si nous obéissons sincèrement à son don. Thomas Benton affirma aussi que si ces gens y mentionnés, Rome 2-14, avaient amélioré au plus haut point la lumière qu'ils avaient, cela n'aurait pas été suffisant pour leur salut. Cela se rapporte encore à sa notion erronée selon laquelle ils n'avaient qu'une lumière venant de Dieu le Créateur, et non du Christ le Médiateur, ce qui paraît contraire au texte, Rome 2-13-15. Car juifs et gentils devaient tous être jugés, même les secrets des hommes, sans exception par Jésus-Christ, selon l'Évangile, verset 16. Mais s'ils doivent être jugés et condamnés, soit parce qu'ils n'avaient pas une lumière suffisante de la part de Dieu pour être sauvés, soit parce qu'ils n'avaient pas de lumière de l'Évangile par Jésus-Christ à améliorer en vue du salut, cela rend Dieu et le Christ tous deux des juges sans miséricorde et injustes. Quoi ? Juger et condamner des hommes pour n'avoir pas amélioré, ou pour n'avoir pas obéi à une lumière, une loi ou un Évangile qu'ils n'ont jamais eu, et qu'ils n'auraient pas pu avoir s'il ne leur avait pas été donné. Ou bien, lorsqu'ils ont fait le meilleur usage possible de la lumière qui leur était donnée, tomber malgré tout en deçà du salut, et être par conséquent jugés pour la condamnation. Oh ! Doctrine sans miséricorde et cruelle, et contraire à la justice commune parmi les hommes, et assurément une telle doctrine ne peut être conforme à l'évangile de la libre grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais elle s'accorde plutôt avec la notion partielle et étroite des croyants en la prédestination, et de ceux qui, par leur doctrine, voudraient limiter et enfermer la grâce et l'amour de Dieu à un petit nombre choisi d'entre les hommes. Une telle opinion partielle est manifestement contraire à l'amour libre et universel de Dieu, dont son cher Fils Jésus-Christ fut si pleinement rempli qu'on l'appela justement le Fils de son amour, amour qu'il a étendu si librement et universellement au monde, selon la bonne volonté de son Père céleste, dans tout le bien qu'il a fait et donné aux enfants des hommes. Et ainsi l'amour de Christ attesté dans la Sainte Écriture est véritablement l'amour de Dieu en lui envers nous tous. Et si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, gratuitement, Rome 8-32. Jésus-Christ a montré son grand amour, ainsi que celui de son Père céleste, envers tous les hommes, en tant qu'il est la lumière du monde, donnée comme lumière aux gentils, et comme salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, et aussi en mourant pour tous les hommes, par la grâce de Dieu goûtant la mort pour chaque homme, se donnant lui-même en rançon pour tous les hommes, et faisant intercession tant pour les transgresseurs que pour les saints, et aussi selon la volonté de Dieu, même dans le ciel, il apparaît en la présence de Dieu pour nous. Et son Esprit fait intercession, vient au secours de nos infirmités, nous émeut et nous assiste dans la prière. Ceux qui sont fils de Dieu sentent qu'il a envoyé l'Esprit de son Fils dans leur cœur, criant « Abba, Père » Gal 4-6. L'humilité, la miséricorde et la condescendance de Jésus-Christ, notre bien remédiateur, sont telles qu'il est touché du sentiment de nos infirmités, faiblesses et tentations, et qu'il est prêt à secourir, aider et soulager tous ceux qui sont tentés, même par sa grâce et son bon esprit, lorsqu'il s'approche du trône de sa miséricorde et de sa grâce. Au Créateur fidèle, au Roi des saints, au miséricordieux souverain sacrificateur, au Médiateur compatissant, que votre lumière et votre vérité éclatent plus en plus, à la gloire de votre grand et excellent nom et de votre puissance, et qu'elle chasse les grandes ténèbres de l'apostasie qui ont couvert de nombreuses nations et professions de christianisme, et qui se sont fortement manifestées en ces derniers temps contre votre lumière, votre vérité et votre peuple, que vous avez appelé et délivré des ténèbres par votre merveilleuse lumière. Gloire et domination à votre grand nom et à votre puissance au siècle des siècles. Pour revenir à la matière en controverse, mon adversaire Thomas Benton affirma que c'était par une nature corrompue que ces gentils mentionnés en Rome 2-14 faisaient les choses contenues dans la loi, laquelle, reconnaissait-il, était la loi morale, ou les 10 commandements. Dans cette proposition, l'homme s'égarait autant que dans le reste de ses erreurs, car qui peut tirer une chose pure l'observation de la loi d'une nature impure et corrompue? Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou un mauvais arbre peut-il porter de bons fruits? Certainement non. Pas plus ces gentils ne pouvaient-ils, par une nature corrompue et non sanctifiée, faire les choses contenues dans la loi juste de Dieu, qui exige un amour sincère et entier pour lui, et un véritable amour pour nos prochains comme pour nous-mêmes. Si par une nature corrompue, cette loi peut être accomplie, par quelle nature est-elle transgressée? Là où les hommes n'aiment ni leur Créateur ni leur prochain, mon adversaire ne considéra pas bien le texte de Rome 2,14, ni l'état de ces gentils qui, par nature, faisaient les choses contenues dans la loi, lesquelles l'apôtre cite comme exemple pour la justification, verset 13. Quoique n'ayant pas la loi, c'est-à-dire dans la lettre, ils en avaient l'esprit, jusque dans leur cœur. Et quelle était l'œuvre de la loi dans leur cœur, y étant écrite, assurément, c'était une œuvre sanctifiante en eux, dont procédait leur accomplissement. La loi de l'Éternel est parfaite, elle convertit l'âme, psaume 19,7. Par conséquent, leur accomplissement de ces choses contenues dans la loi de Dieu ne se faisait pas par, ou dans, une nature dépravée, mais dans une nature et un état converti, sanctifié ou réformé. D'autres grossières méprises et erreurs furent commises dans cette dispute par Thomas Benton, notamment que ceux mentionnés en Rome 1,20 voyaient les choses invisibles de Dieu par une lumière naturelle, et que les hommes naturels pouvaient voir clairement la puissance éternelle de Dieu comme créateur, mais non le Christ comme médiateur. En cela, son erreur était notoire, car les choses invisibles de Dieu qui y sont mentionnées sont sa puissance éternelle et sa divinité, ou sa nature divine, et ceux qui les comprenaient et les voyaient à partir de la création étaient de ces gentils qui connaissaient Dieu, et pourtant n'aimèrent pas à le retenir dans leur connaissance, mais devinrent vains dans leurs imaginations, par lesquelles leur cœur insensé s'obscurcit, et ainsi ils devinrent de misérables apostats. La vue et la connaissance qu'ils eurent parfois de Dieu et de sa puissance éternelle n'étaient pas dues à une lumière ou une connaissance naturelle, mais à une lumière spirituelle et divine que Dieu leur avait donnée. Et la connaissance qu'ils avaient de Dieu, ainsi que leur intelligence et leur perception de ces choses invisibles, procédèrent originellement d'un principe divin en eux, puisque ce qui peut être connu de Dieu était manifeste en eux, car c'était Dieu qui le leur avait montré, Rome 1. De sorte qu'ils étaient eux-mêmes sans excuse dans leur déclin. Car il est clair que l'homme naturel ne reçoit pas et ne peut pas connaître les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles se discernent spirituellement, 1 Cor 2,14. Tous les hommes sont assurément vains par nature lorsqu'ils ignorent Dieu et ne peuvent le connaître, c'est-à-dire à partir des biens visibles, Sagesse 13,1. Les hommes doivent être changés et renouvelés, dans une certaine mesure, dans l'esprit de leur intelligence, avant de pouvoir voir ou connaître clairement les choses invisibles de Dieu ou de son Esprit. Ce n'est pas par l'esprit de ce monde, ni par sa sagesse, ni même par une simple lumière naturelle, que les choses de Dieu, qu'il nous a données gratuitement, nous sont révélées, mais par l'esprit qui est de Dieu, 1 Cor 2,10. Cet esprit, si on lui obéit, nous amène à suivre les enseignements et les attraits de Dieu, et nous ne manquerons pas la connaissance de Christ, notre médiateur, ni ne serons privés du grand bénéfice ou fruit de sa médiation, lui qui a dit « Tout homme qui a entendu et appris du Père vient à moi ». Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, étant le chemin vers le Père, nul ne vient au Père que par moi. Encore, la doctrine de notre adversaire fait tort à Dieu et en effet l'accuse d'injustice comme s'il exigeait des hommes une impossibilité, en disant que tous les hommes peuvent croire en Christ s'ils le veulent ou le peuvent, mais que tous les hommes n'ont pas la puissance. C'est comme s'il disait « Je peux parcourir 100 miles avant la nuit, mais je ne le peux pas ». Or les hommes sont repris et condamnés pour le péché d'incrédulité, parce qu'ils ne croient pas en lui, c'est-à-dire en Christ, que Dieu a envoyé. Mais comment cela peut-il s'accorder avec la miséricorde et la justice de Dieu, de reprendre les hommes pour un péché qu'ils ne peuvent éviter, ou pour ne pas croire en Christ, ni lui obéir, s'ils n'ont pas la lumière ou la puissance qui leur est donnée pour croire et obéir lorsqu'ils en ont la volonté? Mais c'est leur péché s'ils ne veulent pas, comme ce fut le péché et la rébellion de ceux qui ne voulurent pas être rassemblés par Christ, ni venir à lui afin d'avoir la vie, alors qu'il pouvait venir à son appel, lui qui donne aux hommes lumière et grâce pour les persuader et les rendre capables de croire et d'obéir. C'est l'œuvre de Dieu que de croire en son Fils Jésus-Christ, mais c'est notre acte d'obéissance, nous devons être exercés dans cette œuvre de Dieu, dans l'obéissance de la foi. C'est du cœur que l'homme croit pour la justice, autrement, il est injuste d'accuser Dieu de condamner les hommes pour leur incrédulité s'il ne leur a pas donné lumière et grâce ou puissance pour croire. Et c'est une doctrine tout aussi injuste et erronée que d'enseigner que, lorsque Christ a dit, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui », le mot « monde » signifierait ici seulement le nombre des croyants, ce qui est une perversion manifeste du témoignage du Christ en cet endroit, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde des incrédules et des pécheurs pour les appeler à la repentance, et il a appelé de tels à se repentir et à croire à l'Évangile, Marc 1,15. Christ est l'auteur de la foi. Il vient pour opérer la foi dans les cœurs des gens par sa lumière et sa grâce. Le monde n'est pas croyant avant qu'il n'opère la foi en lui. Trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra? Non, certes, il trouve les hommes incrédules. Ce serait faire injure aux paroles de Christ, et ce serait impertinent de les détourner et de les limiter ainsi. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde des croyants pour condamner le monde des croyants, mais afin que le monde des croyants soit sauvé par lui, affirmation fausse donnée à titre d'illustration. Le témoignage de Christ est plus général et indique l'amour universel et gratuit de Dieu pour l'humanité, là où il dit aussi, au passage mentionné, Jean 3:16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il ne dit pas ici que ce monde est seulement le monde des croyants, ou le monde des élus, comme l'ont fait certains de ses prédicateurs partiaux, étroits d'esprit et misérables. Mais voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, Jean 3:19. Assurément, il n'entendait pas par là le monde des croyants, que ce soit la condamnation du monde des croyants, ou que les croyants aient aimé les ténèbres plutôt que la lumière, non certes, car ils sont enfants de la lumière, ils aiment tous la lumière, ils marchent dans la lumière, et ils amènent leurs œuvres à la lumière, tels sont les vrais croyants, et les enfants de la lumière et du jour. La seconde question, un vrai ministre peut-il prendre de l'argent, des dons ou des dîmes pour prêcher? Réponse, je le nie. À quoi Thomas Benton répondit que les ministres peuvent prendre de l'argent ou des dîmes pour leur entretien, en rémunération du travail de la prédication de l'Évangile. Toutefois, il ne revendiquait pas les dîmes par un droit divin, mais pour autant qu'il en savait, elles appartenaient au sacerdoce du Christ, l'antitype, parce qu'elles avaient été reçues par Melchisédek dans le type. Mais sur ce point, il n'était pas pleinement résolu ni clair, car il désirait recevoir davantage de lumière de George Whitehead. Ainsi, il apparut en ces jours-là combien certaines personnes, qui prétendaient être des hommes doués et porter une réforme au-dessus des prêtres de paroisse, étaient promptes à s'emparer de leur lucre, de leurs gains et de leurs revenus, par les dîmes ou autrement, afin de satisfaire leur avidité. Et puisque de telles personnes, qui n'avaient pas été formées au sacerdoce, mais étaient des artisans certains du moindre savoir, comme des bouchers, tailleurs, tisserands, etc., tout en prétendant être doués par l'esprit, étaient établis par les gens en quête et mis à prêcher dans leur chair, comme des prêtres dans certaines églises de paroisse, ainsi dites, principalement parce qu'ils avaient fait croire qu'ils étaient spirituellement doués, et que leur ministère ne venait pas d'un apprentissage humain dans les universités. Des gens de bonne foi furent trahis et égarés par de tels prétendants, au point de les établir et de les promouvoir, jusqu'à ce qu'ils devinssent aussi corrompus et cupides que les prêtres de paroisse. Puis ils éludaient le commandement du Christ à ses ministres, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », ainsi que l'exemple de ses ministres conforme à cela. Un ministère gratuit ne serait pas toléré par de tels ministres mercenaires. Lorsque le peuple les avait promus pour leurs dons prétendus, beaucoup d'entre eux ayant secrètement cru que l'enseignement et les dons de l'esprit n'avaient pas entièrement cessé, dont leurs maîtres égoïstes et mercenaires profitèrent pour obtenir des avantages. Alors les dîmes et l'entretien forcé devinrent acceptables, quoique non jure divinaux, ce droit et cette loi divin que le sacerdoce lévitique avait exigeant dîmes et offrandes, ayant été aboli et terminé par le Christ, selon les chapitres 7, 8, 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux. Bien que les dîmes soient reconnues comme typiques, ayant été reçues par Melchisédek dans le type pourtant maintenant, cite Thomas Benton, pour autant qu'il en savait, elles appartiennent au sacerdoce du Christ, l'antitype. Comment cela peut-il être, puisqu'elles ne peuvent être revendiquées par un droit divin, selon son propre aveu? Mais si, dans l'antitype, elles appartiennent au sacerdoce du Christ, cela doit alors être jure divinaux. Or nous n'en avons aucune preuve scripturaire, pas plus que nous n'en avons pour transformer un type en antitype. Ce que mon adversaire semblait faire en faisant des dîmes, qui était un type dans le fait que Melchisédek les recevait, l'antitype dans le sacerdoce du Christ. S'il pouvait ainsi transformer des types en antitypes, il pourrait tout aussi bien transformer des ombres légales en substances évangéliques. Mais son exemple de Melchisédek recevant la dîme d'Abraham, à savoir le dixième du butin pris à la guerre, ne peut faire parallèle ni justifier le cas des dîmes tel qu'il se présente aujourd'hui. Ce ne sont pas de tels dixièmes que les prêtres prennent maintenant, mais les meilleurs fruits de la terre, grains et bétail, porc, oies, laine et agneau, etc. Je montrai alors à Thomas Benton que, bien que Melchisédek fût un type du Christ, le fait qu'il reçut le dixième du butin de guerre, qu'Abraham lui donna librement, ne fonde en rien la prise des dîmes que les prêtres prennent aujourd'hui, et ne constitue ni garantie ni preuve que les ministres de Christ doivent prendre des dîmes de quelque sorte que ce soit, qu'il s'agisse de butin ou d'autre chose. Lorsque je répondis à Thomas Benton en ce sens, il répliqua ainsi, « George Whitehead, votre réponse est comme celle de celui à qui l'on demanda combien il y avait de mille jusqu'à Londres, et qui répondit, « Un pot rempli de prunes », par quoi il montra sa légèreté et son impertinence. » Lorsqu'il ne put soutenir par l'Écriture ou par un droit divin sa prétention aux dîmes, comme dû au sacerdoce du Christ, son principal argument fut alors de dire que les dixièmes n'avaient jamais appartenu au peuple, ce qui n'est pas vrai, mais qu'ils furent donnés aux ministres par les magistrats ou par l'État, et que si le peuple veut être civil qu'il ne veuille pas entretenir ses ministres, alors il faut le contraindre par la loi à le faire. Ce n'était pas la pratique des fidèles ministres du Christ de contraindre les gens à leur fournir l'entretien. Ils ne convoitaient l'argent ni l'or de personne, ni la nourriture, ni la boisson, ni les vêtements, mais prêchaient l'évangile gratuitement, sans rendre l'évangile à charge, étant sous une nécessité que le Christ leur avait imposée de prêcher l'évangile. Pourtant, il leur était permis et ils avaient le pouvoir de manger et de boire, et d'être secourus par ceux qui étaient dignes de les recevoir, et aussi de récolter là où ils avaient semé pour leur secours nécessaire, mais non de contraindre ou de forcer quiconque à assurer leur entretien, qu'il fût indigne, vil ou digne, car les dignes n'ont pas besoin d'être contraints à la charité et à la bonté, surtout envers leurs amis et leurs frères. Et quant à ceux qui sont vils et indignes, qui rejettent le ministère du Christ, eux et les leurs sont rejetés, et aucun prêtre ne peut gagner plus de crédit en contraignant à payer dîmes ou entretien ceux qu'il estime vils et indignes, qu'en persécutant ceux qui ne sont aucunement ses auditeurs, parce qu'ils ne peuvent, par conscience, le suivre ni s'asseoir sous son ministère stérile. Commentaire de l'éditeur du site, commandement de Pierre, paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en veillant sur lui, non par contrainte mais volontairement, non pour un gain honteux de l'argent. 1 Pierre 5, 2. Paul a dit, à la différence de tant d'autres, nous ne trafiquons pas la parole de Dieu pour en tirer profit. Au contraire, en Christ nous parlons devant Dieu avec sincérité, comme des hommes envoyés de Dieu. 2 Cor 2, 17. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le mercenaire n'est pas le berger, il n'est pas le propriétaire des brebis. Ainsi, quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Alors le loup attaque le troupeau et le disperse. L'homme s'enfuit parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Jean 10, 11, 13. Pourtant, Thomas Benton blâma notre ami Richard Way et l'accusa d'injustice pour avoir retenu les dîmes aux prêtres qui le poursuivaient et le persécutaient pour cela. Alors qu'on savait que Richard n'était alors pas un auditeur de ce prêtre, celui-ci n'avait fait aucun travail pour lui. D'où l'injustice d'autant plus grande de la part du prêtre d'exiger salaire de ceux pour lesquels il n'a fait aucun travail. Quant à Richard White, il était bien connu, il reçut la vérité dans un amour sincère dès les premiers jours, parmi les tout premiers de nos amis dans le Haut-Suffolk, et parce que, par conscience envers Jésus-Christ et avec un véritable respect pour l'Évangile et la dispensation de la Nouvelle Alliance, il refusa de payer les dîmes et nia le sacerdoce qui les prend, tout en prétendant être ministre du Christ, il subit une longue emprisonnement dans la prison d'Ipswich et autrement encore, et dans tout cela, il porta un fidèle. Notre réunion et notre dispute se terminèrent paisiblement, et les yeux de beaucoup s'ouvrirent pour voir la corruption de tels ministres qui s'opposaient à la lumière du Christ en l'homme et à la grâce universelle de Dieu envers l'humanité, et plaidaient pour les dîmes et l'entretien forcé en échange de la prédication. Lorsqu'il plut au Seigneur d'envoyer quelques-uns d'entre nous, ses fidèles serviteurs et ministres, parmi eux nous qui participions réellement à son don spirituel et à son ministère, beaucoup de personnes honnêtes dans ces régions quittèrent ces ministres qui, sous prétexte d'être spirituellement doués, devinrent égoïstes, corrompus et cupides, préférant leur gain à la piété, et rassemblant les gens autour d'eux-mêmes, non autour de Jésus-Christ, ni de sa lumière, de sa grâce ou de son esprit dans leur cœur. Beaucoup de personnes sérieuses, même en ces jours-là, sortirent du milieu de ces ministres, maîtres et prêtres qui s'élevaient eux-mêmes, et furent tournés vers Christ leur lumière, et il devint leur ministre, souverain sacrificateur et pasteur, à qui soit gloire et domination à jamais. Peu de temps après la dispute publique à Pulham, Robert Duncan et moi allâmes visiter Thomas Benton chez lui, où nous eûmes un entretien assez modéré, et je m'efforçai d'éclairer son entendement sur quelques points importants du christianisme. Il ne parut pas s'en offenser, mais plutôt s'en montrer amical, et nous nous séparâmes en paix. Après cela, pour l'instruire davantage, j'écrivis une brève réponse aux points controversés lors de notre dispute publique, afin de lui rappeler ses insuffisances et ses incohérences sur plusieurs points. Et à la conclusion de ma réponse, je lui écrivis les lignes suivantes, « Thomas Benton, où est votre équité ou votre justice ? Qui voudrait qu'un prêtre prenne des dîmes à ceux pour lesquels il ne travaille pas, et qu'il n'a pas instruit ? Assurément, si vous écoutiez en vous le principe d'équité et de justice, il vous enseignerait de meilleures leçons que celles que vous avez enseignées, mais vous vous êtes égaré loin de ce principe. Et je dois vous dire ceci, depuis que vous vous êtes engagé sur l'ancienne route sale des prêtres, et que non seulement vous participez avec eux à leurs pratiques cupides, mais encore les prêchez, vous êtes devenus aussi sombres qu'eux, sur qui le soleil s'est couché. Vous avez perdu la sincérité, ou la vérité, qui s'était autrefois éveillée en vous, car maintenant beaucoup de gens au cœur honnête ont commencé à détester votre cupidité et votre hypocrisie, pour lesquelles le Seigneur vous jugera. La sécheresse et le dessèchement sont déjà venus sur vous. Souvenez-vous d'où vous êtes tombés, et considérez votre triste apostasie, afin que vous puissiez heureusement trouver la repentance, d'un ami de votre âme, George Whitehead, le 8 jour du 8e mois, 1659. Un certain James Bedford, prêtre de Bluntisham et Derris dans le Huntingdonshire, ayant fait grand étalage et grand tapage contre le peuple appelé Quakers pour les rendre ridicules et odieux, quelques-uns de nos amis eurent avec lui des discours publics, afin d'apaiser son vacarme. Néanmoins, il persista dans ses invectives et son étalage contre nous, comme s'il pouvait réfuter et abattre les Quakers. Dans une dispute que notre cher ami John Whitehead eut avec le dit prêtre, dans la maison au clocher à Adenham, dans l'île d'Ely, où j'étais présent mais sans beaucoup intervenir, l'accord étant entre le prêtre et John, j'observai que le prêtre n'était qu'un fanfaron hardi et un injurieux tout à fait creux, et qu'il s'en tirait fort mal. Quand la dispute fut terminée, le prêtre alla chez le juge Castle, dans la ville, et j'y allai après lui, afin d'avoir une discussion avec lui devant le juge, ce que j'obtins, et je mis à jour son ignorance, dont le juge prit quelques mesures. Il sembla pourtant parler un peu en faveur du prêtre, mais ne put le justifier. Néanmoins, le prêtre demeurait un adversaire fanfaron et tapageur, et persécuteur notoire de nos amis au sujet des dîmes. Certains amis souhaitèrent que j'aie avec lui une réunion publique pour débattre, et j'appris aussi que notre cher ami et frère George Fox, l'aîné, désirait que je le rencontre. Après mûre réflexion, je trouvai que le Seigneur me donnait la liberté de rencontrer ce prêtre publiquement, sur quoi je lui écrivis quelques lignes, exprimant ma volonté ou mon désir de le rencontrer dans son église paroissiale, ainsi nommée, à un certain jour mentionné dans ma note. Mais pour détourner mon attention et me faire manquer la rencontre au jour que j'avais fixé, le prêtre, par ruse, désigna un autre jour, le 14 du 12e mois, 1659-60, jour où il savait, parce qu'on le lui avait dit, que j'étais engagé à être à une réunion à Cottenham, dans le Cambridgeshire. Par sa note, publiée au marché d'Yves le jour de son propre choix, le prêtre prétendit que lui et George Whitehead devaient avoir une dispute ce jour-là à l'église de Bluntisham. Quoiqu'il n'attendit pas que je le rencontre ce jour-là, sachant que j'étais engagé ailleurs dans le Cambridgeshire, si le Seigneur le permettait, cela étant toujours la condition de mes engagements annoncés à l'avance pour être aux réunions. J'avais coutume d'écrire ou de dire « si le Seigneur le veut, j'ai l'intention d'être à telle réunion ». T'es averti de la désignation frauduleuse du prêtre, la veille du jour qu'il avait ainsi fixé, et mon cher ami John Crook se trouvant alors avec moi dans le Cambridgeshire, je le priai d'aller à cheval à Erith ou à Bluntisham le lendemain matin, et que l'ami qui nous avait donné la vie l'accompagna, la distance étant d'environ 8 ou 9 milles, et que John m'excusa auprès des gens une fois réunis, et leur montra comment le prêtre m'avait circonvenu quant au jour et à l'heure de la rencontre, le jour qu'il avait fixé. John et l'autre ami prirent volontiers cheval et se rendirent à Erith, et moi à Cottenham, afin d'être à la réunion qui m'était fixée. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Erith, ils considérèrent ou comprirent que le prêtre tirait grand avantage et insulterait fortement les amis, si je ne le rencontrais pas ce jour-là, et qu'il prétendrait que j'avais peur de le rencontrer, ce qui était bien loin de mon sentiment. Ainsi John Crook et l'autre ami revinrent immédiatement à cheval me voir à Cottenham avant le début de la réunion, et ils m'exposèrent la nécessité que j'aille rencontrer le prêtre ce jour-là, pour les raisons déjà mentionnées, étant alors près de midi. Et John dit qu'il resterait à la réunion de Cottenham, prenant ma place. L'ami et moi partîmes aussitôt à cheval pour nous hâter sur les 5 000 jusqu'à Erith et Bluntisham, où nous arrivâmes rapidement. Je m'assis tranquillement dans un banc de la maison au clocher environ une demi-heure avant l'arrivée du prêtre. Quand il entra avec ses livres ou ses instruments pour faire du bruit contre nous, souriant et saluant la foule, je le regardai seulement, puis me rassis tranquillement sur le banc. Le prêtre monta en chair comme un conquérant, et ne s'attendant pas à un antagoniste ni à une contestation, il appela d'un ton vantard George Whitehead. Je restai assis un moment, étant hors de sa vue, pour entendre comment il allait se vanter ou nous insulter. Il appela encore et encore « Où est George Whitehead ?» Enfin Henry Foster répondit promptement « Il est ici ». Alors je me levai et dis « Me voici ». Mais le prêtre ne voulut pas reconnaître que j'étais le George Whitehead qui devait le rencontrer. Alors il fut surpris, son dessein frauduleux étant déjoué. Pourtant il questionna encore comme pour m'écarter ou éluder la dispute, disant « Vous n'êtes pas Whitehead, quoique vous ayez le visage blanc ». Le juge Castle était présent et dit « Oui, c'est bien l'homme, M. Bedford, prenez garde à vous ». Voyant le prêtre si vain et si frivole dans ses propos avant d'entrer en dispute, je lui criai « Cessez votre babillage et venons-en au sujet ». Alors le prêtre sortit sa montre et la posa devant lui, et proposa que chacun de nous parlât un quart d'heure à la fois, et de ne pas dépasser ce temps. Il commencerait le premier, et j'aurais ensuite le même temps pour répondre. Je lui dis que je ne pouvais être limité à un quart d'heure, que peut-être je pourrais lui répondre en moins de temps. Mais si ce qu'il alléguait contre nous demandait davantage pour répondre, il fallait m'accorder du temps en conséquence. Je ne savais pas si, en un quart d'heure, il ne pourrait pas nous accuser par tant de détails qu'il faudrait plus de temps pour répondre. Toutefois, il prétendit qu'il s'en tiendrait à son quart d'heure. Alors il commença à lire de nombreuses accusations et histoires perverties tirées d'un ou de plusieurs livres contre le peuple appelé Quakers, écrits par certains adversaires malveillants, prêtres ou autres, et avec mépris et dérision, il s'étendit sur ce qu'il lisait contre ce peuple. Les thèmes de ces accusations se résument comme suit. James Bedford manifesta son ignorance et sa disposition d'esprit irréligieuse, en se moquant des tremblements et frémissements sans distinction, jugeant le tremblement comme venant du diable. Il tourna en dérision les réunions silencieuses des Quakers, les qualifiant de ridicules niaiseries. Il accusa faussement les Quakers de fouler aux pieds la parole de Dieu, parce qu'ils confessaient que le Christ est la parole éternelle, qui était au commencement, et non les Écritures. Il affirma que toutes les Écritures, depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, sont la parole de Dieu, et que les paroles du diable rapportées dans l'Écriture sont aussi la parole de Dieu. Il n'y a que tout homme soit éclairé d'une lumière spirituelle, et affirma que la lumière intérieure menait les hommes au meurtre, sa preuve était Jean 16, 1, 2. Il accusa Paul, au lieu de Saul, de persécuter les saints, insinuant que la lumière l'avait poussé à les persécuter. Il fit quelques remarques moqueuses sur ces accusations jusqu'à ce que son quart d'heure fût écoulé. Je répondis brièvement, en substance, ce qui suit. Son accusation et son jugement contre le fait de trembler et frémir paraissaient grossièrement erronés et blasphématoires, car beaucoup de serviteurs du Seigneur tremblèrent et frémirent à sa parole puissante. Voir Ésaïe 64, 2 et 66, 2, 5, Job 21, 6, Jérémie 5, 22, 33, 9, Ézéchiel 26, 16, 18 et 32, 10, Habacuc 3, 16, 1 Cor 2, 3, Phil 2, 12. Il tourna aussi, en dérision la pratique de beaucoup de gens du Seigneur et de ses serviteurs, qui gardaient le silence et se réunissaient en silence, attendant le Seigneur. Le silence était observé afin de l'entendre parler et les instruire, et de les revêtir de sa puissance et de son esprit, avant qu'ils ne parlent ou ne servent les autres. Voir Jér 8, 14, Lame 3, 28, Rab 2, 20, Zach 2, 13, Ésaïe 41, 1. Les Quakers, confessant que le Christ, le Fils de Dieu, est la parole qui était au commencement, avant que les Écritures ne soient écrites, ne peuvent pas fouler aux pieds la parole de Dieu, car les saintes Écritures en témoignent d'eux-mêmes. Jean 1, 1, Rêve 19, 13, il avait grand tort d'affirmer que toutes les Écritures qui sont des écrits sont la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse sans faire aucune exception. Car si les Écritures contiennent les paroles, doctrines, commandements, préceptes divins et paroles fidèles de Dieu et du Christ, les Écritures elles-mêmes distinguent cependant ceci des paroles et propos du diable, et des blasphèmes de personnes méchantes, qui sont aussi consignés historiquement dans l'Écriture, et il est donc blasphématoire d'appeler les paroles. Son refus d'admettre qu'une lumière spirituelle soit en tout homme est contraire au témoignage du saint évangéliste sur le Christ, la vraie lumière. Jean 1, 4, 7, 9. Et en affirmant que la lumière intérieure menait les hommes au meurtre et à la persécution, à partir de Jean 16, 2, il attribue aux persécuteurs des pensées obscures et meurtrières, de l'inimitié et de la folie à la lumière, et par conséquent il met les ténèbres à la place de la lumière, par quoi ce prêtre se montra dans de grandes ténèbres. Voir Ésaïe 5, 20. Quand j'eus fait ma première défense, et réduit au silence les invectives du prêtre, le juge Castleton vit qu'il ne pouvait se maintenir pour soutenir sa cause contre nous, et il partit avant la fin du débat ou de la réunion, concluant comme on me le dit que le prêtre en avait assez, voyant qu'il ne pouvait faire aucune réplique. Mais il prit soin de nous arrêter quand le quart d'heure était écoulé, me disant « Allez-vous rompre la foi et la vérité ?» Pourtant il divagua en bien d'autres accusations et récits impertinents contre les Quakers, dépassant son quart d'heure et prenant beaucoup plus de temps. Sa principale plainte contre les Quakers était qu'un Quaker l'avait appelé une bête, et il passa du temps à prouver qu'il n'était pas une bête. Voyant qu'il avait rompu sa foi et sa vérité en dépassant sa propre limite d'un quart d'heure, je criai plusieurs fois, demandant à être entendu. Mais il poursuivit son discours divagant et injurieux, et ne voulut pas me permettre de répondre et d'être entendu, jusqu'à ce que les gens s'impatientent et s'irritent de ses interminables impertinences, et crient plusieurs fois, « S'il vous plaît, M. Bedford, écoutez-le, ou laissez-le répondre. » Il les ignora un certain temps, continuant ses divagations et son vacarme, se plaignant du Quake qu'il avait traité de bête. Je dis au peuple que, si l'on me laissait parler, je prouverais qu'il était une bête, ce qui rendit les gens certains de ses principaux auditeurs d'autant plus pressants pour le persuader de se taire, afin de m'entendre le prouver bête. Mais il s'efforça avec ardeur de poursuivre sa diatribe contre les Quakers, à dessein de prendre le temps et de m'en empêcher, de sorte que certains dirent qu'il était fou ou le crurent fou. Mais enfin ils parvinrent à le faire taire, afin que je puisse être entendu pour prouver ce que j'avais promis contre lui. Alors je proposai d'abord que certains hommes étaient appelés bêtes dans l'Écriture pour diverses causes ou crimes, et que si je prouvais James Bedford coupable des mêmes choses, ou de choses semblables, alors j'avais prouvé qu'il était une bête selon l'Écriture. Puis pour prouver que certains hommes ou personnes étaient appelés bêtes dans l'Écriture, je citai Tite 1, 10, 12, Il y a beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs, dont il faut fermer la bouche, eux qui bouleversent des maisons entières, enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'entre eux, même un de leurs propres prophètes, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, mauvaises bêtes, ventre paresseux. Or, si je prouvais que James Bedford se rendait coupable de ces mêmes maux, pour lesquels ce cité dans les Écritures était appelé mauvaise bête, alors je le prouvais être une telle bête comme eux. » Premièrement, il était évident pour l'auditoire que James Bedford s'était montré un discoureur indiscipliné et vain, ayant pris beaucoup de temps ici en paroles vaines et en harangues sans but, sans donner aucune réponse. Deuxièmement, qu'il enseigne, ou a enseigné, des choses qu'il ne devrait pas enseigner, en soutenant que la lumière intérieure mène les hommes au meurtre, ce qui est contraire à la lumière du Christ dans les hommes, et à la Sainte Écriture, et ce n'est rien de mieux qu'un blasphème contre cette lumière. Enfin, que son enseignement est pour un gain honteux se manifeste par ses pratiques cupides et sa persécution pour un gain honteux contre ceux qui dissentent de lui, en témoigne l'enlèvement par force et violence par lui et ses hommes de blé, d'orge et de pois en grande quantité, autant que lui et ses hommes le voulurent pour les dîmes à John Cranwell, outre 4 agneaux et de la laine autant que ses hommes le voulurent en quantité sans rendre compte de la valeur, et aussi 3 vaches avec un veau et une charrette et ses roues, le tout représentant. Et en plus de toute cette oppression et extorsion, il emprisonna John Cranwell dans la prison de Huntingdon pour montrer combien légalement il prétendait procéder, après avoir procédé si arbitrairement et illégalement par la force pour dépouiller et enlever les biens de son honnête voisin, afin de satisfaire sa propre avidité et sa vengeance contre lui. Ainsi il était manifeste que ce prêtre enseignait pour un gain honteux des choses qu'il ne devait pas. Par conséquent, il fut ouvertement, devant ses propres auditeurs et d'autres, prouvé être une bête, selon le sens de l'apôtre Paul et les Écritures de vérité. Et je puis ajouter que, par conséquent, il méritait le qualificatif de mauvaise bête. Et lorsque, selon l'argument et les exemples précédents, j'eus prouvé mon accusation contre le prêtre Bedford, au lieu de faire une quelconque réplique ou défense pour lui-même, il descendit rapidement et s'enfuit, abandonnant le lieu et l'assemblée. Ainsi sa vantardie et ses insultes d'avant prirent fin, comme j'avais réellement cru que le Seigneur lui fermerait la bouche. Car j'avais ressenti alors le zèle du Seigneur et sa puissance avec moi, comme en bien d'autres occasions, pour la défense de sa vérité bénie et de son peuple. Au Seigneur notre Dieu, qui m'a soutenu, et qui m'a aussi aidé autrefois, j'attribue toute louange, et au-dessus de tout, béni pour toujours. Après que le prêtre se fut éloigné et eut quitté l'assemblée, j'eus une très bonne et paisible occasion de déclarer et de démontrer la vérité, et de prêcher l'évangile au peuple, et tous furent paisibles. Quand j'eus soulagé ma conscience envers eux, je leur donnai avis public d'une réunion que j'avais l'intention, si le Seigneur le permettait, de tenir le lendemain dans la même ville. Nous sortîmes tous paisiblement de leur maison au clocher, sans aucun trouble, affront ni molestation. Et le lendemain, conformément à l'annonce, nous eûmes une très bonne réunion, utile, dans la ville, à laquelle vinrent beaucoup d'hommes de considération. Après avoir voyagé et travaillé quelque temps à l'œuvre de l'Évangile, dans le Cambridgeshire, le Huntingdonshire, l'île d'Ely, et quelques parties du Lincolnshire, comme c'est l'appelé Holland, ainsi que dans certaines parties du Northamptonshire, je fus fortement pressé en esprit de chercher une réunion dans la ville de Peterborough, quoique je n'y eusse entendu parler d'aucun ami pour me recevoir, moi ou nos amis. Mais, après enquête, on trouva un homme sobre, honnête d'esprit, de réputation et de qualité, qui voulut bien tenir une réunion chez lui. Elle fut donc fixée pour un premier jour de la semaine. Je ne puis me souvenir si c'était au premier ou au deuxième mois, mais c'était au printemps de l'année 1660, et beaucoup d'amis des environs y voyagèrent, les uns venant des Fens et d'autres du Rutlandshire. Dans la semaine qui précéda la réunion, j'eus sur l'esprit un grand poids et le sentiment que nous aurions quelque épreuve et exercice par la souffrance lors de cette réunion. Bien que ce fût une petite ville, j'y percevais de grandes ténèbres et une grande méchanceté, et ainsi l'épreuve advint. Quand nos amis et moi eûmes commencé à nous réunir dans la maison, une foule de gens grossiers se rassembla autour, dans la cour, d'une manière si rude et tumultueuse, comme s'ils avaient l'intention d'abattre la maison. Nous jugeâmes donc préférable de déplacer la réunion dans la cour attenante, ne voulant pas que la maison de cet homme honnête fût endommagée d'aucune façon par cette bande grossière. Je m'abandonnai à la volonté du Seigneur, préférant être livré entre leurs mains plutôt que de voir souffrir, à cause de la réunion, la famille chez qui nous nous réunissions. Après que nous nous fûmes déplacés dans la cour, je fus poussé à monter sur un tabouret et, au nom du Seigneur, à prêcher la vérité pendant un certain temps, près d'une heure. Le Seigneur me soutint et me fortifia, de sorte que je fus rendu capable, avec des paroles vivantes de déclarer la vérité, et dans une libre résignation à souffrir toute violence ou tout mal qu'il pourrait permettre aux méchants de faire ou de m'infliger. Car avant ce temps-là, j'avais souvent résigné ma volonté quant à la vie et à la liberté pour l'amour de l'Évangile. Pendant que je déclarais la vérité, un homme, que l'on disait être aubergiste, avec une compagnie grossière à sa suite, se rua violemment et furieusement dans la réunion, visant surtout à me tirer à bas. La réunion était assez serrée, et plusieurs amis se trouvaient sur son chemin, de sorte qu'il ne pouvait pas m'atteindre facilement. Entre-temps, d'autres me jetèrent de la terre et des œufs, qu'on croyait pourris, par quoi ma tête et mon visage furent fortement souillés, pourtant je continuai à déclarer la vérité. L'homme furieux cherchait toujours à venir sur moi. Il prit un tabouret par les pieds et le leva pour frapper ceux qui se tenaient devant lui et lui barrait le passage. Mais un ami, qui se tenait près de là, saisit le tabouret au moment où il portait son coup pour l'en empêcher. Pourtant il frappa une ancienne femme, une de nos amies, avec le bord du tabouret sur le côté de la tête, ce qui fit une entaille et une blessure à sa tempe près de l'œil, au point qu'on pensa que si le coup avait porté directement sur sa tête, il lui aurait pu faire sortir la cervelle. Mais le Seigneur l'empêcha providentiellement. La fureur et la rage de cet homme semblaient principalement dirigées contre moi, et son effort était de m'atteindre. Pour l'empêcher de blesser d'autres personnes, je demandai à l'assemblée de dégager le passage afin qu'il puisse venir à moi, car j'étais au-dessus de la crainte de tout mal qu'il ou eux pourrait me faire. Alors lui et sa compagnie vinrent et me tirèrent violemment à bas, et quand j'étais entre leurs mains, je ressentis un grand apaisement dans mon esprit, percevant que le Seigneur, qui me soutenait, plaidait secrètement ma cause auprès d'eux, de sorte que leur fureur s'apaisa immédiatement, leurs esprits s'abaissèrent, et ils furent retenus de me faire du mal. Ils me traînèrent hors de la réunion, à travers une partie de leur église cathédrale, ainsi appelée, un passage étant ouvert près d'une extrémité, puis ils me laissèrent rapidement aller. Il y avait alors à Peterborough quelques soldats de Lambert, ou de l'ancienne armée cantonnée qui étaient spectateurs, et ils virent comment moi et d'autres d'entre nous fûmes traités et malmenés à la réunion. Certains furent pris de compassion et nous conduisirent à l'un de leurs cantonnements, où j'allai à la pompe et laver la saleté de mon visage, mais je ne pus alors laver ma tête pour nettoyer mes cheveux. On indiqua ensuite à quelques amis avec moi une chambre à l'étage de l'auberge, où nous nous assîmes ensemble, attendant le Seigneur pendant un certain temps, je crois près de 2 heures, et le Seigneur consola et rafraîchit nos esprits, et il mit dans mon cœur de retourner encore à la même maison d'où j'avais été traîné hors de la réunion. Plusieurs personnes sobres s'y rassemblèrent l'après-midi, et j'eus une bonne réunion et un bon service pour le Seigneur, en rendant témoignage à sa vérité bénie parmi eux. Et nous tîmes la réunion paisiblement, et nous nous séparâmes en paix, sans molestation. Ce soir-là, après la fin de la réunion, je quittai Peterborough et quelques autres amis avec moi, très consolés et rafraîchis dans le Seigneur mon Dieu, ayant senti sa puissance vivante et sa présence avec moi et mes amis, pour notre préservation et notre délivrance des mains d'hommes déraisonnables. Bien qu'ils eussent montré une telle fureur et une telle folie contre nous ce jour-là, ils ne furent pas permis de nous faire beaucoup de mal, sauf que l'ancienne amie fut blessée à la tête, mais, autant que je sache, elle se rétablit en peu de temps. Le même soir, nous chevauchâmes encore quelques milles jusqu'à la maison d'un ami honnête, je crois qu'il s'appelait John Mason, qui avait quitté l'armée et reçu la vérité, et était devenu un ami utile. Le lendemain matin, Isabelle Acker, épouse du colonel Acker, qui avait été à la dite réunion, prit la peine de retirer de mes cheveux la saleté qu'on m'avait jetée la veille, lors de la dite réunion. Après cela, je montai à cheval avec elle et sa compagnie pour Oucombe, à sa maison dans le Rutlandshire, où le prêtre de la ville vint le jour suivant, avec qui j'eus une discussion en présence du colonel Acker. Le prêtre, étant hautain et orgueilleux, se mettait facilement en colère, ce qui le rendait incapable de tenir une discussion équitable. Je le lui dis, ce qu'il ne voulut pas reconnaître, mais il me dit que j'étais en colère, parce que je lui parlais avec une certaine fermeté. Je lui dis qu'il ne pourrait pas me provoquer à la colère quand bien même il m'injurierait du matin au soir, ainsi notre discussion prit rapidement fin. Je ne perçus pas que le colonel Acker, ni personne de ceux qui étaient présents, pût excuser le prêtre en colère. Lorsque des ministres presbytériens et indépendants avaient le dessein de réformer les corruptions, immoralités, profanations et superstitions, qui s'était accrue et répandue sous l'épiscopat église d'Angleterre anglicane épiscopalienne, on voyait chez eux quelque sincérité et zèle à leur manière pour la pratique de la religion et de la piété. Et leur prédication contre l'ivrognerie, la profanation du sabbat, les jurons, le mensonge, l'envie, l'orgueil, la cupidité, l'idolâtrie, la superstition, etc. Quelle attention et quelle prudence montraient-ils envers leurs auditeurs pour les préparer à être de dignes communiants, afin qu'ils ne mangent et ne boivent pas indignement, ni pour leur condamnation ni pour leur jugement, comme ceux qui ne discernent pas le corps du Seigneur. Bien que ce discernement ait longtemps fait défaut depuis l'apostasie d'avec la substance. En ces premiers temps de la réforme projetée contre l'épiscopat, certains de ces réformateurs, dans leur zèle, croyaient que le Seigneur était avec eux et que sa présence accompagnait leur ministère. Et tandis qu'il y avait chez beaucoup d'entre eux un zèle contre le vice et pour promouvoir la vertu, sans doute qu'une présence secrète du Seigneur, dans une certaine mesure, accompagnait le ministère de tels hommes, ce qui produisit quelque bon effet en vue d'une réforme. Mais lorsque les enseignants et chefs de diverses sortes et sociétés devinrent prêtres de paroisse, et tombèrent dans l'orgueil et la cupidité, dans des positions élevées, de grands bénéfices à prêcher pour le lucre, l'entretien forcé, les dîmes, les oblations, les obventions, les revenus, etc. Et étant favorisés par les révolutions du gouvernement, leur zèle se refroidit, la corruption et la cupidité augmentèrent, leur ministère et leur prédication devinrent morts et stériles, et beaucoup de personnes bien disposées commencèrent à voir leur déclin et leur corruption, et s'enlacèrent. Alors la moisson de l'Évangile s'approcha et arriva, afin que beaucoup soient rassemblés à la vie de la religion chrétienne et à la puissance de la piété, des ténèbres à la vraie lumière, de la chair à l'esprit, des formes mortes à la puissance vivante, des ombres à Christ la substance, des voix mortes et faux cultes, vers la voie vivante et l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Pour cette fin et ce dessein, Dieu daigna, en un temps favorable, susciter des témoins et ministres vivants et fidèles les premiers Quakers de l'Évangile éternel, pour ouvrir les yeux et l'intelligence du peuple, pour les tourner des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu, afin que, se repentant véritablement, ils reçoivent la rémission des péchés et un héritage parmi les sanctifiés, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la vraie lumière. Et le ministère de ces témoins fidèles fut très agréable et efficace pour beaucoup, dont Dieu avait préparé et ouvert les cœurs pour recevoir l'amour de la vérité, telle qu'elle est en Christ Jésus. Alors les prêtres orgueilleux et cupides, et les prédicateurs mercenaires de toutes sortes, furent fortement troublés. Le simple bruit d'un peuple levé dans le nord de l'Angleterre, appelé Quakers, de son accroissement et de sa diffusion, et de la force de son témoignage, fit saisir de peur et de consternation l'esprit de beaucoup de ces prédicateurs, quand leur commerce était en danger et que leur profit était en jeu, à mesure que le ministère gratuit de l'Évangile du Christ prenait effet et place dans le cœur des gens. Alors les chairs retentirent, on promut des lectures et des conférences, des plaintes et des pétitions furent présentées aux magistrats contre les Quakers, sous les prétextes injustes et faux qu'ils seraient des antéchrists, venus dans les derniers jours astérisques des trompeurs, des séducteurs, dangereux pour l'Église et l'État. Certains d'entre eux, ayant conscience du dépérissement de leur ministère, et comme ils déchoient et descendent dans les yeux et l'estime de leur congrégation, devinrent d'autant plus craintifs et jaloux de leur position, surtout sachant en partie leur propre corruption, que quels que fussent les bons mots qu'ils employaient, leurs actions ne reflétaient pas ce qu'ils disaient. Ainsi ils plaidèrent auprès de leur congrégation pour qu'on les excuse disant « Vous devez faire ce que nous disons et non ce que nous faisons », se rendant ainsi hypocrites dans l'état des scribes et des pharisiens assis dans la chair de Moïse. Comme les pharisiens représentaient la loi de Moïse alors en vigueur, ils disaient au peuple de l'observer ce qui était alors ce qu'ils devaient observer et faire, mais le Christ dit « Ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Matt 23, 3. Voyez tout le chapitre, avec quelle vigueur et quel zèle notre Seigneur témoigna contre ces hypocrites, avec de nombreux malheurs prononcés contre eux, le Christ était bien loin de les reconnaître comme de vrais ministres. Astérisque les derniers jours ont commencé il y a 2000 ans à la Pentecôte, comme Pierre l'expliqua dans les Actes, mais voici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et Jean dit que les séducteurs et les antéchrists étaient déjà venus, il y a 2000 ans. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'antéchrist vient, déjà maintenant plusieurs antéchrists sont venus. Par là nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 2, 18 Je me souviens très bien de quelques points principaux d'une remarquable conférence, parmi certains de ce qu'on appelait ministres ou pasteurs indépendants, survenus alors qu'ils déclinaient de la sincérité et du zèle qui avait autrefois agi parmi eux et en certains d'entre eux. J'en eus le récit de notre cher, ancien et fidèle ami Robert Ludgate, père de Great Coggeshall, dans l'Essex en substance comme suit, que beaucoup de ministres ou prêtres indépendants, réunis à Coggeshall, tinrent une conférence portant principalement sur une question d'abord posée par Samuel Crossman, pasteur d'une église à Sudbury, dans le Suffolk. La question était celle-ci. Quelle est la raison pour laquelle la présence de Dieu n'assiste pas ou n'accompagne pas notre ministère maintenant, comme elle le faisait au début ou à l'origine? À quoi celui qui posa la question répondit d'abord, « Au commencement, nous avions égard à une bonne conduite et à une bonne manière de vivre pour y être de bons exemples, Et ensuite nous recherchions le bien des âmes du peuple, nous les désirions, eux et non ce qui leur appartenait. Nous prêchions alors dans la simplicité de l'Évangile, avec simplicité et sincérité, sans élan recherché d'éloquence, ni parole de la sagesse des hommes, car c'est grand dommage qu'un homme se tienne en chair pour prêcher, et ne prêche pas la simplicité et la pureté de l'Évangile. Mais les ministres puritains n'avaient même pas la moindre idée de ce qu'est l'Évangile. Ils pensaient que l'Évangile était les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce qu'ils ne sont pas. Car comme Paul l'a dit, l'Évangile a été, tant passé, prêché à toute créature, Abraham étant le premier, l'Évangile est un mystère. Mais maintenant, le cas a changé pour nous. Quoique nous disions de bonnes paroles, nous menons une mauvaise vie, nous ne sommes pas de bons exemples pour nos auditeurs. Nous convoitons leur bien plus qu'eux-mêmes. Nous recherchons maintenant, dans notre prédication, une éloquence florissante, la rhétorique, la philosophie ou l'érudition des écoles, plus que la simplicité et la pureté de l'Évangile. Pour ces raisons, la présence de Dieu ne nous accompagne plus dans notre ministère comme au commencement ou autrefois. Un autre de la compagnie, le ministre ou prêtre de paroisse de Coguchol, répéta la question « Quelle est la raison pour laquelle la présence de Dieu n'accompagne plus notre ministère comme au commencement ?» Et il poursuivit « J'ajouterai cette question. Quelle était cette présence de Dieu qui accompagnait notre ministère au commencement ?» À quoi il répondit « C'était une présence qui éclairait, c'était une présence qui vivifiait ou rendait la vie, c'était une présence qui fortifiait et confirmait, et tout cela manque maintenant à notre ministère. » Un autre ministre professant de la compagnie répéta la question, mais différa dans sa réponse de ses deux frères précédents. Quelle est la raison pour laquelle la présence de Dieu ne va plus avec notre ministère maintenant, comme au début ? Il répondit en substance, « Notre ministère est une ordonnance de Dieu, et nous ne devons pas supposer que Dieu abandonnera sa propre ordonnance. Mais beaucoup de personnes se sont retournées contre nous, qui nient les ordonnances et nous disent, « Vos ordonnances sont des ordonnances stériles, ce sont des ordonnances de désert, votre ministère est un ministère stérile, c'est un ministère sans fruit, un ministère mort, et par conséquent pour ces gens-là, il doit nécessairement paraître inefficace et stérile. » Mais il conclut en ces termes, « Bien que notre ministère ou nos ordonnances vous paraissent n'être que des ordonnances stériles, des ordonnances de désert, vous devriez néanmoins continuer ou persister à les observer. » Un autre, pasteur estimé et important parmi eux, répéta enfin la question, « Quelle est la raison pour laquelle la présence de Dieu n'assiste pas notre ministère ?» Il répondit dans ce sens, contredisant les autres, « Dieu n'a pas abandonné notre ministère. Il n'a pas retiré sa présence de ses propres ordonnances, quoique cela n'apparaisse pas aussi efficacement qu'au commencement, sans le même effet. C'est parce que notre ministère n'a touché que les élus, pour leur conversion, ce qui était ordonné à la vie éternelle ou au salut. Mais pour ceux qui sont autrement prédestinés à la damnation, on ne doit pas s'attendre à ce que notre ministère produise effet sur eux, pour leur conversion ou leur salut. » Les premières et deuxièmes réponses à la question précédente étaient ingénues et honnêtes, mais les deux dernières obscures et préjudiciables, surtout la dernière relative à la doctrine de la prédestination, qui est contraire à la grâce et à l'amour libre et universel de Dieu en Jésus-Christ envers l'humanité, et aux offres gratuites de cette grâce conditionnellement, dans son évangile prêché universellement à tous. On prêta grande attention à Samuel Crossman, qui avait le premier posé la question, quant à son déclin ultérieur par rapport à son ancien zèle, sa sincérité et sa réforme professée, son indépendance et sa dissidence d'avec l'épiscopat. Après que le roi Charles y monta sur le trône, et que la persécution étant permise, elle commença contre les disciples les plus consciencieux, et que la conformité fut exigée et imposée, Samuel Crossman fit la croix, éluda sa dissidence et son indépendance, et se conformant et temporisant, quitta sa congrégation et son peuple à Sudbury, et se rendit dans la ville de Bristol. Et là, se montrant un zélé conformiste, il obtint un avancement sous l'évêque anglican, et devint prêtre de paroisse épiscopalien dans cette ville. Une fois, j'étais à Bristol, rendant visite à Bethesfield, une veuve, et Samuel Crossman entra dans son salon où j'étais assis, et exigea des Easter Reckonings semblables à des paiements de dîmes de la veuve, ce que je contestais, comme déraisonnable aussi bien que non conforme aux Écritures, de le lui demander, à elle qui n'était ni de sa congrégation ni de sa communion. Je lui parlai de la réputation dont j'avais entendu parler et que je comprenais à son sujet, à savoir quel ministre éminent il avait été parmi les indépendants à Sudbury, et je lui demandai comment il pouvait maintenant être un tel conformiste à la doctrine épiscopale, après toutes ses hautes professions de réforme au contraire, ou comment sa conscience pouvait lui permettre d'exiger de l'argent d'une veuve qui n'était même pas dans sa congrégation. Il me donna une réponse lisse, mais évasive, nullement satisfaisante ni sincère, faisant comme si se conformer à l'Église d'Angleterre n'était qu'une affaire d'indifférence, et comme si ces cérémonies n'étaient que des choses indifférentes, dont on pouvait se dispenser, pourvu qu'il pût prêcher l'Évangile. Beaucoup de prêtres mondains ont avancé de telles allégations pour s'excuser, dans des cas semblables de compromission grave de leurs principes. Ayant l'occasion, je lui rappelai le passage mentionné précédemment et me répétai à lui-même sa question et sa réponse. Comme Robert Ludgate me les avait rapportés, c'était d'autant plus précis dans le cas de Samuel Crossman, puisqu'il était la personne directement concernée, afin de voir s'il pouvait nier quelque partie du fait rapporté au sujet de sa question. Quelle est la raison pour laquelle la présence de Dieu n'accompagne pas notre ministère aujourd'hui, comme elle le faisait au commencement ? Cela, ainsi que sa réponse, je le lui rappelai, et il n'en nia aucune part, ce qui confirma d'autant plus, à ma satisfaction, la véracité du récit de Robert Ludgate. Dans l'humilité et la reconnaissance envers notre grand et très miséricordieux Seigneur Dieu, je dois confesser sa puissance et sa bonté, oui, et sa providence particulière en m'ayant aidé par le passé, en me fortifiant dans son œuvre et son service, et en me préservant et me délivrant, au travers de bien des épreuves, souffrances et persécutions, de sorte que je n'ai pas été livré à la volonté de mes ennemis et persécuteurs, qui cherchaient ma destruction, non seulement en exhalant contre moi, et contre d'autres serviteurs du Christ. Toutefois, le reste de leur fureur, le Seigneur l'a jusqu'ici tellement contenu qu'il ne leur a pas permis d'exécuter leurs pires desseins contre nous, le Seigneur m'ayant réservé, en mon temps, davantage de services, ainsi que des épreuves, des souffrances et des exercices de toutes sortes. Les persécutions et les difficultés que j'avais subies n'ont pas été permises pour mettre fin à mes jours, ni à mon service dans l'Évangile de Jésus-Christ, mais pour rendre celui-ci plus remarquable et plus efficace, par la puissance du Seigneur et sa tendre miséricorde envers moi et envers son peuple, et pour le salut de beaucoup de pauvres âmes. Les rudes emprisonnements, les confinements, les tumultes, les coups de fouet cruels, les passages à tabac, les lapidations, les contusions et les mauvais traitements de diverses sortes, dis-je, n'ont pas été permis pour mettre un terme à mes jours, mais la puissance du Seigneur a soutenu et préservé mon esprit dans la foi et la patience au milieu de toutes ces afflictions et de ces périls, afin que je lui obéisse et le serve avec une résolution sincère dans l'Évangile et dans l'œuvre qui s'y rapporte. Que mon âme bénisse et loue à jamais le digne nom et la puissance du Seigneur mon Dieu. Je passe maintenant à un récit de mes progrès ultérieurs et des exercices que j'ai traversés pour la vérité bénie. Suite, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en profitant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.